Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, document d'archives du 29 mars 1995, rediffusé dimanche 6 octobre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Programme un petit peu chargé ce soir, encore que pas trop. On va recevoir Henri de Lesquin et Pierre Milan pour... les activités du Club de l'Horloge, et pour un livre qui vient d'être publié, qui s'appelle « Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire ». Ensuite, on aura la visite téléphonique de Marc Dem, puis le docteur Tremblay, avec lequel on conclura cette série d'entretiens sur la démographie, l'avortement et les conséquences de l'avortement sur la démographie. Et puis, normalement, on devrait recevoir Maître Valrand Saint-Just, qui rentre du Liban et qui nous expliquera ce qui se passe dans ce pays. C'est tout à fait intéressant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent au Liban, sur ceux qui s'y intéressent pas. Mais je pense que ça sera quand même pas négligeable, ce qui sera dit. Et puis, l'émission se terminera avec la chronique de Cécilia, la chronique consacrée aux fleurs et aux jardins. Voilà. Avant de parler de ça, je dois vous parler d'actualité un petit peu, et notamment vous donner une nouvelle qui, selon que vous serez d'un côté ou de l'autre, vous fera plaisir. Si vous êtes le péniste, vilaine chose, vous serez content. Si vous êtes villiériste, admirable chose, vous serez certainement terriblement déçu d'apprendre que ce matin, Monsieur Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, est allé déposer les 500 signatures nécessaires à la patente. Oui, Monsieur Lesquin,
je crois que tous les Français démocrates peuvent s'en réjouir. Car il aurait été, qu'on soit favorable ou non à Jean-Marie Le Pen, là n'est pas la question. Je crois qu'il aurait été préjudiciable au bon fonctionnement de la démocratie qu'un candidat qui représente, selon les sondages et selon les élections récentes, 10 ou 15% des voix du peuple français, ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Je crois que ça aurait été tout à fait anormal et les Français, de tous bords, sans doute, l'auraient mal ressenti.
Je vous laisse la responsabilité de cette appréciation.
Je la prends volontiers.
Vous n'êtes pas sans ignorer, comme disent les
analphabètes.
Les analphabètes, que cette radio est la radio de toutes les droites et que, par conséquent, il ne sied point d'y laisser entendre que Monsieur de Villiers serait autre chose qu'un démocrate sourcilleux. Or, Monsieur de Villiers avait non seulement manifesté vigoureusement son envie que Jean-Marie Le Pen n'obtienne pas les 500 signatures nécessaires, mais il avait même menacé avec le camarade le fameux Stalinien de Jardin, il avait même menacé les maires éventuels signataires de publier des listes de proscription en quelque sorte à la veille des élections municipales.
Je crois que l'incident est clos. Je crois simplement que les noms des maires seront publiés dans le journal officiel d'après la loi. Peut-être contestable.
Oui, c'est tout à fait contestable, bien sûr, puisque c'est une atteinte au secret, non pas du vote, mais au secret de l'opinion politique. Si quelqu'un n'a pas envie que ses opinions soient révélées, en tenant compte du fait, d'ailleurs, que le fait de donner sa signature à Jean-Marie Le Pen ne veut pas dire qu'on est pour lui, mais simplement qu'on est pour la juste expression démocratique d'un parti ou d'un mouvement qui représente quand même 4 millions ou 5 millions de suffrages. Mais moi, c'est pas ça qui me travaille particulièrement. Je suis pas démocrate, je l'ai déjà dit. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quand même qu'elle trahit, elle révèle l'opinion que M. de Villiers a de ses contemporains. Parce que c'est pas difficile à calculer. Il y a 40 000 signataires potentiels de ces papiers, de ces documents permettant aux candidats de se présenter. Il faut 500 signatures. Le Front National représentant en gros 10% de la population, je dis bien en gros, c'est le chiffre qu'on admettra généralement, enfin 10% de l'électorat, on peut considérer que 10% des élus sont dans la même position. C'est ce qui nous donne 4000 élus qui voteraient Front National. En admettant qu'il s'agisse d'une partie de la population particulièrement conformiste, prudente, frileuse, soucieuse de préserver ses droits, ses avantages, ses privilèges, on peut réduire, mettons, de la moitié et dire que, contrairement à l'ensemble de la population, les élus ne sont que 5% à voter Jean-Marie Le Pen, ce qui laisse encore 2000 personnes. Le fait de penser que la menace de la publication de son nom puisse dissuader 500 personnes sur 2000 de manifester un engagement quelconque, c'est vraiment avoir le plus grand mépris pour le courage de ses contemporains. Voilà, c'est ce que je remarque, c'est tout, je ne veux pas en dire plus. Je pense que... je suis pas tout à fait d'accord avec Henri de Lesquin, oui. D'ailleurs, quand il dit que l'incident est clos.
Non, mais on peut ajouter un mot, peut-être. Parce que je crois que la règle des 500 signatures est une mauvaise règle. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Perfit sur De Gaulle, C'était De Gaulle, qui contient donc, qui rassemble des confidences recueillies par Perfit, par la Perfit. Et notamment, celles qui se rapportent aux critères d'éligibilité ou de candidature à l'élection présidentielle. De Gaulle, à l'origine, ne voulait pas de signature du tout. Il estimait que n'importe qui pouvait se présenter, que c'était démocratique et que c'était le peuple qui choisirait. Et Giscard, à l'époque, voulait déjà 500 signatures. Et finalement, De Gaulle a accepté 100 signatures. Ce qui avait permis d'ailleurs à M. Le Pen de se présenter en 1974. Mais la règle de 500 signatures, aggravée par la publication au journal officiel avec les pressions que cela peut représenter sur les maires en question, fait qu'il peut être difficile pour un candidat, non pas marginal, mais différent, d'obtenir les signatures en question.
Tout à fait.
Et il aurait été, encore une fois, extrêmement choquant que Mme Laguiller, qui représente le trotskisme, c'est-à-dire l'ultra-gauche plus communiste que les communistes, ait ses 500 signatures... Et que Jean-Marie Le Pen ne les ait pas, c'est évident.
Oui, je dirais que Arlette Laguiller, dans cette affaire, représente plus cette fois-ci que toutes les autres, parce que je crois qu'elle est candidate depuis 70 consultations présidentielles, à peu près. Enfin, elle est devenue candidate pratiquement à l'avènement de la République, je crois.
Oui,
pas loin.
4 septennats, oui.
Candidate de première classe, dernier échelon.
Voilà, c'est ça. Donc cette dame... qui jusqu'à présent était tenu dans un mépris mérité, parce que je dois dire que professer des idées aussi monolithiquement et irréprochablement stupides, c'est déjà, ça n'appelle que le silence, mais en plus le faire avec un manque de talent aussi évident.
Pour
oui,
pour ménager une transition habile, si j'ose dire, j'ajouterais que en l'occurrence, il faut refuser l'exclusion.
Oui.
C'est-à-dire que les signatures, les 500 signatures visent à exclure des candidats qui peuvent être parfaitement valables du débat électoral. Eh bien, en l'occurrence, vous voyez que nous ne sommes pas contre toutes les exclusions.
Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je suis pas
pour tous les refus d'exclusion, pardon.
Je suis pas du tout pour qu'on exclue Madame Laguiller. Ce que je constate simplement, c'est que en ce moment, elle est devenue une espèce de mascotte. Ce qui est d'ailleurs assez indigne, parce que c'est assez déshonorant pour elle, il faut dire la façon dont elle est traitée. Elle devient une espèce de joujou que Monsieur Fabrice Lucchini caresse dans le sens du poil, on passera à l'expression, le soir des Molières, à qui Monsieur Souchon consacre une chanson, que on s'arrache, que Madame Christine Claire ou Madame Catherine Ney, j'ai jamais bien fait la différence, présente comme une espèce de jolie joujou féminine, pas jolie, d'amusante vieille poupée, tout ça est pitoyable. Tout ça est tout à fait pitoyable. Il faut quand même savoir, il faut quand même pas oublier les centaines de millions de morts qu'il y a derrière l'idéologie soutenue et professée par Madame Laguillée. C'est une femme qui, évidemment, n'a jamais rien fait de sa vie, y compris d'ailleurs professionnellement, puisqu'elle est permanente syndicale de naissance. Donc elle n'a jamais rien produit, mais elle a défendu une idéologie de haine et de mort depuis toujours. Alors elle le fait sur un ton larmoyant de bonne sœur défroquée, qui fait que tout le monde est un petit peu ému, en quelque sorte, de voir cette vieille dame, cette vieille fille, qui essaye de ressasser ses vieilles histoires à longueur de journée. Mais quand même, derrière ça, il y a Cuba, il y a la Chine, il y a le Vietnam, il y a le Cambodge, il y a tous ces pays où des fous furieux, appuyés sur une idéologie de mort, on se met...
Vous oubliez la Russie, car Trotsky lui-même, d'être éliminé par Staline, voilà, a perpétré les crimes les pires.
J'allais parler de l'armée rouge.
En Russie.
Et évidemment, il y a le moteur principal de cette idéologie de mort qui a été l'armée rouge fondée par Trotsky. Donc, je veux dire, cette espèce d'indulgence amusée qu'on a pour Laguillée, quand on la compare avec la haine affichée qu'on manifeste pour Le Pen... Eh ben, elle juge une classe politique, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire, entre autres choses, ce soir. On va pas reparler des sondages, mais quand même, je signale que Le Pen est allé voir le conseiller d'État honoraire président de la commission des sondages, qui s'appelle Monsieur Gazier, pour lui demander que la loi soit respectée en ce qui concerne les sondages. Parce que maintenant, ça devient une manipulation tellement grotesque que je pense que les citoyens commencent à s'en apercevoir, mais on peut toujours avoir des doutes sur la lucidité des Français. On peut toujours, on a le droit. C'est pas... Et la loi, par exemple, prévoit la publication des noms des commanditaires des sondages. Or, ça n'est pratiquement jamais fait. Le Pen a demandé que ce soit fait. Et Monsieur le Président Gazier a assuré que la Commission veillerait au respect de cette obligation légale et ne manquerait pas de saisir le parquet des infractions constatées. D'autre part, Le Pen et Gollnisch, qui l'accompagnaient, ont une fois de plus souligné l'extraordinaire injure au bon sens et à la simple vérité que constituent ce qu'ils appellent les méthodes, ce que les sondeurs appellent des méthodes de redressement, et qui sont utilisés par les instituts de sondage pour corriger les chiffres bruts. Alors en gros, ça consiste à dire, je l'ai déjà expliqué mais j'y reviens, on interroge 1000 personnes et les résultats qu'on obtient ne peuvent pas naturellement être pris au sérieux en chiffres bruts. Il faut donc corriger ces résultats. Ce qui revient à dire que quand on nous présente un sondage comme un sondage réalisé d'après la méthode des quotas, c'est un mensonge. Ça veut dire, à l'origine, réalisé selon la méthode des quotas, qu'on sélectionne 1000 personnes qui constituent un échantillon représentatif homothétique de la société française. Or, c'est extrêmement difficile, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils interrogent 1000 personnes, et ensuite, sur ces 1000 personnes, ils sélectionnent un échantillon jugé représentatif. C'est-à-dire qu'ils prennent un retraité, un jeune travailleur, un chômeur, une femme, une mère de famille nombreuse, etc. Et à partir de là, ils rebâtissent un échantillon représentatif à partir duquel ils vont corriger ces fameux chiffres bruts. Par exemple, quand ils obtiennent, 12% d'intention de vote pour Monsieur Jospin, ils portent les intentions de vote à 20%, et quand ils obtiennent 12% pour Le Pen, ils trouvent que c'est suffisamment représentatif comme ça, et Le Pen reste à 12%. C'est constant, ça a été avoué de façon absolument explicite par un directeur d'institut de sondage qui a dit qu'il faisait ça, qui a dit on rectifie les chiffres en fonction des résultats des élections précédentes, parce qu'on sait, par exemple, dit-il, que les électeurs de Le Pen mentent. Bien sûr, les électeurs de Le Pen ne peuvent que mentir. Entre autres cochonneries, bien entendu. Alors, par conséquent, quand on interviewe quelqu'un en disant « Est-ce que vous allez voter Le Pen ?», il ne répond pas le chien abject. Alors, donc, on réduit les intentions de vote. Je ne sais pas si vous me suivez bien. On fait donc exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour redresser un sondage. Si on part du principe que les gens ne disent pas qu'ils vont voter pour quelqu'un, il faut majorer les résultats pour obtenir une approximation de résultats projetés. Si on réduit encore les résultats, on augmente les effets du mensonge. Mais le directeur de l'Institut de sondage, apparemment, ça lui était pas venu à l'esprit. Donc il a avoué tout simplement qu'il faisait ça. Et ce qui est intéressant dans cette visite de Le Pen et Gollnisch au président de la commission des sondages, c'est que M. Gazier, président, a donné des garanties, en tout cas verbales, sur l'intervention de la commission des sondages pour le respect des règles et le respect de la législation. Donc, on peut être tranquille. Ça va fonctionner exactement comme les tribunaux, par exemple, quand le maire de Marseille refuse en 88 d'accorder une salle à l'occasion d'une campagne électorale à Jean-Marie Le Pen pour que Jean-Marie Le Pen fasse un discours. Jean-Marie Le Pen porte plainte et la justice, avec beaucoup, beaucoup de rigueur, condamne en 94 monsieur le maire de Marseille pour avoir refusé une salle pendant la campagne des présidentielles de 88. Et là, on peut être sûr que M. Gazier, président de la commission des sondages, aux alentours de l'année 98-99, prononcera une condamnation extrêmement virulente des méthodes utilisées par les sondeurs au cours de l'élection présidentielle de 1900, la campagne présidentielle de 1995. C'est très rassurant. Moi, je suis content de savoir que, entre autres, les impôts que je paie servent à financer des organismes comme cet organisme tout puissant qui est la commission de contrôle des sondages, puisque on peut espérer que dans 5 ou 6 ans, cet organisme rendra un verdict définitif sur les manipulations sondagières. Voilà. Toujours dans le cadre des bonnes nouvelles, je vous signale la création du CISIA. Le CISIA, c'est le Comité international de soutien aux intellectuels algériens, avec des Z partout. Alors, le CISIA, donc, est contre la ghettoïsation de l'Algérie. Moi, je dois dire que ça m'avait pas vraiment frappé que l'Algérie était un ghetto. Je pense que les quelques centaines de... Enfin, en tout cas, dizaines de milliers de Juifs qui ont été obligés de partir d'Algérie ne devaient pas non plus avoir remarqué que c'était un ghetto. En tout cas, ce CISIA nous dit, en 1989, la France accordait 800 000 visas aux Algériens qui souhaitaient passer quelque temps sur le sol français pour des raisons diverses. Tourisme, visite familiale, séjour professionnel, soins, inscription universitaire, etc. En 1989, 800 000 visas. Je me demande si c'est pas la première fois que ce chiffre est annoncé d'une façon aussi ouverte et avouée. Le volume de ces déplacements, et bien que l'instauration du visa obligatoire ait déjà imposé une restriction, reflétait simplement l'intensité des relations humaines et économiques entre les deux pays. Tu l'as dit, Bouffi. En 1994, il a été accordé moins de 100 000 visas aux Algériens, alors que les demandes étaient globalement de même volume et de même nature que les années précédentes. Écoutez bien ça, parce que c'est très intéressant, vous savez. En 1995, on en est à n'octroyer qu'à peine un visa sur 10 demandé. Il s'agit bien d'une quasi-fermeture de la frontière entre les deux pays. Pourquoi le CISIA s'émeut-il de ces restrictions dans la distribution des visas? C'est parce que, nous dit-il, la situation est devenue tragique pour les Algériens qui sont en danger en Algérie, dans leur pays, et qui voudraient bien venir se mettre à l'abri en France. Seulement, qu'est-ce que nous dit le CISIA? Je vous le relis. Les demandes étaient globalement, en 1994, de même volume et de même nature que les années précédentes. Ce qui réduit à néant l'argumentation de la nécessité. Puisque si, sous la pression du FIS et du terrorisme, le nombre des visas n'a pas augmenté par rapport à une période de 89, par exemple, où il n'y avait aucun terrorisme, c'est bien la preuve que le terrorisme n'a rien à voir avec les demandes de visa, et que les 800 000 Algériens qui demandent des visas en France, pour la France, sont en 95 comme en 89, des gens qui viennent, nous dit le CISIA, faire du tourisme, des visites familiales, des séjours professionnels, recevoir des soins, ou prendre des inscriptions universitaires. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'ils nous disent pas, sur les 800 000 touristes, visiteurs familiaux, séjournistes professionnels, malades recevant des soins ou universitaires en cours d'inscription, combien il y en a qui, à l'expiration de leur visa, vont retourner dans leur pays d'origine. Ça, on ne nous le dit pas. C'est peut-être d'ailleurs parce que le chiffre est suffisamment infime pour ne pas être statistiquement signifiant. En tout cas, le CISIA nous dit, refuser des visas, c'est fabriquer des exilés. Et vous allez voir comme ces gens-là sont extraordinairement intellectuellement tordus, parce que et on peut pas dire autre chose. Refuser des visas, c'est fabriquer les exilés. Refuser les visas, c'est faire le jeu des assassins. Il faut rétablir les possibilités d'aller et retour. En réalité, c'est surtout les possibilités d'aller, les possibilités de retour, on verra plus tard. Plus que jamais, la société algérienne a besoin de respirer. La société française, on s'en fout, elle a pas du tout besoin de respirer. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire. Écoutez bien, mais c'est à pas croire. C'est imprimé, je vous prends à témoin. Pour que les Algériens puissent continuer à vivre dans leur pays et à le préserver du pire, le CISIA demande aux autorités françaises la reprise de la délivrance normale des visas. Alors moi, je sais bien, je suis un abruti, d'abord parce que je suis d'extrême droite, en plus parce que je suis un simple français, catholique et français toujours, donc j'ai toutes les doses nécessaires au crétinisme avéré et définitif. Mais quand je lis qu'on me dit ou qu'on m'écrit que il faut... Pour que les Algériens puissent continuer à vivre dans leur pays, qu'on leur donne la permission de s'installer en France, je dis à ces messieurs du CISIA, passez-moi l'expression, éloignez les enfants du poste, est-ce que vous allez vous foutre longtemps de ma gueule? Parce que c'est exactement ça. Vous vous foutez de ma gueule, vous me prenez pour qui? Si les Algériens veulent vivre au pays, moi alors là je suis 100% d'accord. Je dirais même 1000% d'accord. Et je vois pas la nécessité de leur donner des visas pour venir en France s'ils veulent vivre au pays. Et puis, deuxièmement, je voudrais reprendre une démonstration que j'ai déjà faite plusieurs fois. Elle procède en deux points. Premier point, je trouve scandaleux que les gens du CISIA, qui sont certainement du Comité international de soutien aux intellectuels algériens, les manuels algériens, ils peuvent toujours se faire buter, on s'en fout, que les gens du CISIA, qui sont certainement des intellectuels, des gens intelligents et des gens pleins de cœur, pleins d'âme, je trouve scandaleux qu'ils ne préviennent pas leurs amis algériens que la France est un pays raciste. Il faut quand même le dire. La presse française le dit et l'écrit à longueur de journée. La radio et la télévision française nous le démontrent à coup d'émissions, à coup de documentaires, à coup de reportages, à coup de films.
Oui, la Commission des droits de l'homme, qui est un organisme officiel, a fait un rapport pour expliquer que la France était très raciste, et elle l'a prouvé en relevant qu'il y a eu, en 1993, ou en 1994 plutôt, 34 actes présumés racistes.
Je ne sais pas si vous rendez compte.
Je rappelle qu'il y a eu, en 1994, 4 millions de crimes et délits. Voilà. 4 millions de crimes et délits. Donc 34 sur 4 millions, ça ne me paraît pas un taux extrêmement élevé.
Écoutez, c'est énorme. Vous vous rendez compte que 34, ça veut dire pratiquement que tous les 10 jours, il se commet un acte raciste en France.
Peut-être une injure, d'ailleurs.
Ça va de l'injure au graffiti, en passant par la claque dans la figure entre automobilistes. Parce que c'est de ce niveau-là. Si vous avez la malchance que le gars qui vous a fait une queue de poisson soit pas blanc-bleu, et si vous lui mettez une baffe, vous êtes bon, c'est du racisme. Donc, il faut dire aux Algériens, chers amis, chers anciens compatriotes, car ce sont d'anciens compatriotes, il ne faut pas oublier ça, surtout ne venez pas en France, c'est un pays raciste. La Commission consultative des droits de l'homme l'a dit, le président de la République l'a dit, tout le monde le dit. Donc c'est vrai, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions le disent. Ne venez pas chez nous, c'est encore plus dangereux que chez vous. Puis en plus, c'est quelque chose de très désagréable, c'est qu'au moins quand vous vous faites tuer par un type du fils, bon ben c'est en famille que ça se passe. Vous faites buter par un militant du FLN, c'est un frère. Et vous venez en France, vous êtes tué par un franchouillard, vous vous rendez compte? C'est répugnant de mourir comme ça. Non, restez mourir chez vous. Ou alors, aller dans les pays frères, le Maroc, juste à gauche, quand on regarde vers le haut, la Tunisie, juste à droite, quand on regarde, c'est pareil. Là, vous trouverez les mêmes conditions de vie. Il n'y a pas de racisme. Comment voulez-vous que les Marocains soient racistes? C'est impossible. Comment voulez-vous que les Tunisiens soient racistes? C'est impossible. Il y a un pays où on est encore moins raciste, je l'ai déjà dit, mais je le répète, où on ne peut pas être raciste du tout, c'est impossible, puisque ce pays est en quelque sorte le fer de lance de la pointe en diamant. Ça se dit, ça? Non, la pointe en diamant du fer de lance, plutôt. De la lutte antiraciste dans le monde entier, dans tous les pays. Vous pouvez regarder, c'est pas moi qui le dis. Les organisations antiracistes sont animées par des militants antiracistes, je dirais, d'essence, par essence. Ce pays, c'est Israël. Israël est, en quelque sorte, la capitale mondiale de l'antiracisme. Donc, je dis à mes frères algériens, à mes anciens compatriotes algériens, ne venez pas vous faire casser la gueule en France, c'est de la folie. Allez en Israël. Vous comprenez? Voilà un pays où il faut aller. Moi, je le dis, et je pense que pas un seul Israélien n'osera s'opposer à ma démonstration. Franchement, je vois pas au nom de quoi on pourrait me porter la contradiction. Alors, comment les gens du Sizia peuvent-ils à la fois dire que le seul moyen pour les Algériens de continuer à vivre dans leur pays, c'est d'avoir un visa pour venir en France, pays raciste, pays de tueurs racistes, franchouillards et abrutis, alors que on ne leur dit pas qu'il y a des pays où ils seront beaucoup plus heureux. Tiens, il y a encore un pays où ils seront encore bien plus heureux que partout ailleurs, on en parlera prochainement avec le professeur Lugan qui en revient, c'est le Québec. Le Québec, c'est une espèce... C'est presque comme Israël, c'est un parangon absolu de l'antiracisme. Les seuls gens qui détestent vraiment au Québec, majoritairement, c'est les Français de France. Ça, eux, les maudits Français, comme ils disent. Ça, ils peuvent vraiment pas nous encaisser. Mais nous, on s'en fout, on n'y va pas, c'est tout. Tandis que les Algériens seraient bienvenus au Québec. Donc, je vous le dis, il faut aller là-bas. Ça me paraît très important. En tout cas, si vous voulez soutenir le CISIA, parce que moi, je suis un homme d'information, je vous donne son adresse, c'est 21 Terre, rue Voltaire, 75011 Paris, téléphone 46 59 27 86, et vous pouvez donc participer à toutes leurs manifestations qui consistent, alors je le signale, pour que les Algériens puissent continuer à vivre dans leur pays et à le préserver du pire, le CISIA demande aux autorités françaises, premièrement, la reprise de la délivrance normale des visas, un minimum de refus, une procédure moins longue et plus simple. Moi, je trouve d'ailleurs qu'on doit les supprimer à ce train-là. Ça ferait des économies d'administration. Deuxièmement, l'octroi et le renouvellement des visas de longue durée à multiples entrées pour les catégories de personnes exposées qui n'envisagent pas l'exil. C'est-à-dire, ça, si vous le relisez très bien, vous voyez de qui il s'agit. Hein? Les personnes exposées qui n'envisagent pas l'exil, ben, par exemple, en France, on a connu, dans les périodes 41, 42, 43, 44, il y avait des personnes exposées qui n'envisageaient pas l'exil. Par exemple, c'était Jean Moulin. Il était exposé, il n'envisageait pas l'exil. Alors, il prenait un avion la nuit, il allait en Angleterre, il prenait ses ordres, il revenait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des résistants, les personnes exposées qui n'envisagent pas l'exil. Les autres, on appelle ça des fuyards, ou des pétochards, comme on veut. Et ceux qui ne sont pas exposés, on les appelle des collabos. En gros, c'est ça. Donc là, ce que proposent les gens du CISIA, c'est que les gens qui voudraient poursuivre le combat en Algérie pourraient avoir comme base arrière un pays qui s'appellerait la France. Personnellement, ça me paraît pas la meilleure idée de l'année, vous voyez. Je trouve qu'on a déjà assez de soucis comme ça, c'est peut-être pas la peine d'en ajouter. Mais enfin, voilà. Et troisièmement, la délivrance de visa en urgence pour les personnes menacées de mort qui en font la demande. C'est-à-dire, en gros, ce que demande le CISIA. Parce que une personne menacée de mort qui fait la demande d'un visa, elle va pas arriver avec le gars qui l'a menacé en disant, je vous apporte ce monsieur m'a menacé de mort, n'est-ce pas, cher ami? Oui, je vous menace de mort. Alors, vous voyez, vous avez la preuve, donc il faut me donner un visa. C'est pas comme ça que ça marche. Le gars, il arrive et il dit, j'ai été menacé de mort. Vous avez une preuve? Et quelle preuve vous voulez que j'ai? Vous avez une lettre. Ah oui, non, mais attendez, je vais l'écrire tout de suite. Voilà. Alors, donc, ça veut dire, en gros, la position du CISIA, donner des visas à tous ceux qui en font la demande. Au fond, ça veut dire supprimer les visas. Moi, je serais même d'ailleurs, dans ces conditions-là, partisans de distribuer carrément des cartes d'identité nationales à toutes les personnes. D'ailleurs, au fond, c'est même idiot ce que je dis, vous voyez. faudrait même supprimer. Le mieux, ça serait quand même de supprimer la carte d'identité aux Français.
Non, en fait, le gouvernement algérien devrait instituer un visa de séjour pour ses propres ressortissants en Algérie. Et ceux qui n'auraient pas le visa de séjour pour ses propres ressortissants en Algérie seraient obligés d'aller en France.
Obligés de partir. Ben oui. C'est une bonne idée. Enfin, donc vous voyez que c'est une émission positive parce qu'on propose plein d'idées. Moi, j'ai donné au moins 4 pays dans lesquels les personnes pouvaient se réfugier et j'ai donné une solution pratique et rapide. Ah oui, c'est rue Voltaire, pardon. L'adresse, c'est rue Voltaire. J'ai dit boulevard Voltaire, c'est rue. Comité international de soutien aux intellectuels algériens, les manuels peuvent aller se faire foutre. 21 Terre, rue Voltaire. N'allez pas boulevard Voltaire, parce que c'est peut-être quelqu'un, on ne sait pas. Hein. Et c'est une permanence du Front National. 21 Terre, rue Voltaire, 75-011, Paris. Téléphone 46-59-27-86. Voilà. En même temps, d'ailleurs, si vous avez de la place, vous pouvez leur dire que vous avez un appartement ou une maison de campagne, un petit manoir en Bourgogne pour accueillir des exilés. Voilà. Quoi d'autre ? Oui, il y a un monsieur qui m'a envoyé une lettre très drôle. Malheureusement, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est un peu longue. Mais en gros, son raisonnement est le suivant. Il dit, voilà maintenant quelqu'un qui me dit c'est boulevard. Non, c'est fini, on n'en parle plus. Quand vous donnez des prix, vous dites par exemple 1 milliard et vous ajoutez 100 milliards de centimes. Alors, ils me disent c'est bien, mais il faut changer en réalité les unités. Parce que ce système-là, plus personne n'y comprend rien. Quand on dit 1 milliard de francs, l'auditeur, que ce soit l'auditeur à la radio ou dans la conversation, a beaucoup de difficultés à conceptualiser ça. On peut pas imaginer qu'il s'agit d'un milliard de francs, c'est-à-dire de 100 milliards de centimes. Donc chaque fois, l'interlocuteur ou le parleur dit un milliard de francs, c'est-à-dire 100 milliards de centimes. Alors il dit non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il y a un truc qui est beaucoup plus simple, il faut utiliser de nouvelles unités. Par exemple, dit-il, moi j'ai trois unités, deux unités simples et des macro-unités. Alors l'unité simple, c'est la mallette. Alors il a fait un calcul, dans une mallette on peut mettre 1 million de francs, donc il dit une mallette, cette affaire a coûté une mallette, ça a coûté donc 1 million de francs, on le sait. Et ensuite, si c'est 1 milliard de centimes, c'est une camionnette pleine de mallettes. Quand ça dépasse des prix comme ça, alors on en arrive aux macro-unités. Alors il dit par exemple, les macro-unités que j'ai retenues, c'est l'avenue des Champs-Élysées, la rue de la Monnaie bien sûr, et l'impasse du Crédit Lyonnais. Dans le 13e arrondissement. Il fait remarquer d'ailleurs qu'il y a une rue qui porte le nom du Crédit Lyonnais et que c'est une impasse. Il trouve ça plutôt inquiétant. Je crois que c'est trop tard pour s'inquiéter maintenant. Alors il dit par exemple, si j'ai la chance, si je gagnais 20 milliards de centimes, eh bien la malheureuse impasse du Crédit Lyonnais avec ses 100 mètres de long ne me permettra d'accueillir que 20 camionnettes, soit 20 milliards, ça va, de centimes. Si j'ai la chance d'avoir honnêtement gagné 40 milliards de centimes, ça me remplit la rue de la Monnaie qui fait 200 mètres de long. Au-delà, je fais dans le grandiose et je me précipite sur les Champs-Élysées. 100 milliards de centimes représentent une file d'une centaine de camionnettes, 500 mètres à peine un quart de l'avenue. Avec l'avenue complète, je suis dans les 400 milliards de centimes, 400 camionnettes sur 2 kilomètres. Et ensuite, que me direz-vous ? Ah ah, je vous attendais, et le stationnement en double file, qu'en faites-vous ? Alors sur la longueur des Champs-Élysées, 800 camionnettes, 800 milliards, qui m'empêchera de m'étendre en largeur, vous peut-être, 1000 milliards de centimes, 5 files de 200 camionnettes, 10 000 milliards, 25 files de 400 camionnettes. Et là, nous commençons à déborder sur les contre-allées, dit-il. Qu'à cela ne tienne, d'un seul élan, je plonge dans l'hyperespace par superposition de champs, m'envolant ainsi vers l'Élysée, celui d'en haut, pas celui d'en bas. Voilà, donc maintenant, on parlera de camionnettes. Je sais pas, est-ce que l'énarque que vous êtes, Henri Lesquin, est sensible à ce mode
de calcul ? Tout à fait, mais le politicien que je suis aussi n'est pas très sensible au mode de calcul qui me paraît discutable.
Discutable. voilà, alors, il me reste 2 minutes pour vous dire de lire présent, ça vous le savez, je vous le dis toutes les semaines, donc si vous n'avez pas compris, ça devient un peu désespérant, mais je sais qu'il y a de nouveaux auditeurs toutes les semaines, donc il paraît qu'il y en a qui arrêtent aussi. Donc ça, c'est des phénomènes de compensation. Il y a beaucoup d'informations fortes, intéressantes. Il y en a une que j'avais relevée tout particulièrement. Vous allez me dire que je suis un peu obsédé. C'est celle-ci. Tiens, ça va intéresser Maître Valrand Saint-Just qui vient de nous rejoindre et qui est, entre autres, l'avocat de la Griffe. Présent à relever dans Liberté Service, supplément gratuit tiré à 75 000 exemplaires de la liberté du Morbihan. Le Morbihan, c'est en France, je crois. Hein. Faudrait pas m'avancer, mais il me semble. Boîte postale 135, 56 101, Lorient, CEDEX. Ah, ça s'appelle Lorient, c'est peut-être pour ça. Cette offre d'emploi d'Éco Quimperlé, numéro 1 du travail temporaire. Alors, il y a la petite annonce qui nous dit « Éco Quimperlé, numéro 1 du travail temporaire, recherche des accrocheurs. » Je ne sais pas ce que c'est qu'un accrocheur.
C'est dans la boucherie.
C'est dans la boucherie, les accrocheurs ?
Oui, ceux qui accrochent sur les crochets.
Alors, ils recherchent des accrocheurs de nationalité musulmane.
Ouais.
Si vous êtes... Alors, deux choses. Premièrement, on apprend qu'il y a en France, comme en Yougoslavie, une nationalité musulmane. Moi, je croyais que c'était une religion, l'islam. Non, c'est une nationalité maintenant. Et deuxièmement, si vous êtes de nationalité catholique, vous pouvez aller vous faire brosser. Si vous êtes de nationalité juive, vous allez vous faire voir. Vous ne pouvez pas être accrocheur. Hein, voilà. Ah, vous pouvez être accrocheur, mais pas pour Éco Quimperlé. Numéro 1 du travail temporaire.
Je suppose que ça a quelque chose à voir avec, excusez-moi, je suppose que ça a quelque chose à voir avec les méthodes d'abattage.
Oui, c'est pour que
ça vous fasse halal. Halal.
Écoutez, entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, il y a un employeur halal, un boucher halal, qui a dit, moi je peux pas embaucher de roumi, parce que s'il touche la viande, elle n'est plus halal. Et donc, il faut l'acheter.
Mais soyez objectifs. Il est normal aussi qu'un sacristain dans une église catholique soit catholique.
Oui.
Par exemple, à Saint-Nicolas du Chardonnay, on peut demander, on peut avoir des exigences de religion, de foi et de moralité.
Oui, dans
quand
une église.
Sacristain.
Non, s'il s'agissait d'embaucher un imam, je ne serais pas étonné qu'on réclame un imam musulman.
Voilà.
Mais là, il s'agit d'un employé de boucherie.
Oui, mais.
On est hors sujet.
Non, parce que.
Moi, j'attends que dans une boucherie j'attends qu'un boucher catholique publie une petite annonce disant recherche accrocheur entre parenthèses catholique et vous explique quand vous allez le voir en disant écoutez vous n'avez pas le droit de le faire, c'est interdit par la loi. Vous explique, ah oui mais moi s'il y a un bougnoul qui touche ma bidoche elle est pourrie.
Serge,
vous allez voir les ennuis
le
qui va.
Le problème c'est que notre religion ne s'étend pas à la viande que nous mangeons, elle est indifférente à
sûr
ça.
Que si, le vendredi alors la
oui,
viande qu'on
le
mange
vendredi,
du poisson.
Oui, oui, oui.
Eh ben, j'espère que mon poisson n'a pas été pêché par un musulman. Va savoir, tout est possible. Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'on vit, comme dirait Sanders, on vit une époque formidable. D'ailleurs, c'est un fait. Tiens, puisqu'on en parle, mon cher Henri de Lesquin, c'est de l'exclusion.
Vous ne faites que parler d'exclusion, vous comprenez. Voilà. En fait, moi, je vous écoutais en décryptant votre discours sur le mode de l'exclusion et du refus d'exclusion. Quand on refuse une salle à un candidat à la présidence de la République, à Marseille ou ailleurs, c'est une exclusion sans doute qui n'a pas de légitimité. Quand on refuse un visa à un immigré ou à un candidat à l'immigration, alors qu'il y a déjà trop d'immigrés en France, on peut penser que cette exclusion est légitime. Ou bien, si on est comme la CISIA, on pense l'inverse. Vous comprenez ? Donc, en fait, toute la question est de savoir quelles sont les exclusions légitimes et celles qui ne le sont pas.
Oui, alors, ça, c'est le... Ben, là, je crois que vous êtes au cœur du sujet tout de suite. Je me tourne vers Pierre Milan, qui, avec le Club de l'Horloge, a réalisé ce livre, Le refus de l'exclusion, qui est édité par Lettres du Monde, c'est-à-dire en réalité par le club, j'imagine.
Ah non, mais
c'était la maison d'édition.
Quand nous éditons,
12, Paris.
Quand nous éditons un livre, nous l'éditons sous le nom d'édition Club de l'Horloge.
Mais il n'y a pas de mal. Moi, j'ai.
Non, mais nous le disons.
J'ai édité le livre que j'ai fait avec Sanders aux éditions des Villains Hardis, mais c'était nous.
Non, nous avons des publications du club. Celle-ci
était
éditée par les Lettres du Monde.
Lettres du Monde.
Sans qu'il rentre au Faubourg Saint-Antoine, 75-012, Paris.
Vous êtes en plein cœur du sujet le plus actuel, c'est-à-dire tout le monde a ce mot-là à la bouche.
Oui.
Bien entendu, d'ailleurs, tout le monde se garde bien de préciser de quoi il s'agit exactement. C'est ce qu'on pourrait appeler un sous-ensemble flou.
Oui.
Hein. Exclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles en sont les prémices? Quelles en sont les limites? Au fond, on n'en sait rien. Est-ce que vous donnez une définition? Est-ce que vous avez essayé d'approcher une définition de l'exclusion?
Oui, alors, je dirais même d'au départ que c'est pas nous qui avons donné la première définition de l'exclusion, cette espèce de peste contemporaine contre laquelle toutes les bonnes âmes aujourd'hui doivent se mobiliser pour la combattre. C'est René Lenoir, inspecteur général des finances, qui a été secrétaire d'État à l'action sociale de 74 à 78, qui a édité en 74 un ouvrage qui s'appelait « Les exclus, un Français sur 10 ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il, 10 ans après, il persiste, et dans Le Monde, dossier et document de décembre 94, Il écrit ceci, si vous permettez, je cite 30 secondes, c'est intéressant parce que ça situe bien le thème. « Un survol de l'évolution sociale, dit M. Lenoir, sur 20 ans, montre que les exclus de la fin du siècle ne sont plus ceux des années 1970. » Donc les exclus mutent, en quelque sorte. Il explique que des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine des personnes âgées et handicapées, mais la régression, écrit-il, est dramatique dans celui de l'inadaptation sociale. Les exclus, catégories hétérogènes, comprenant les alcooliques dépendants, les suicidaires, les drogués, les délinquants, les illettrés, les isolés dans la ville, etc., etc. »
Pardonnez-moi de vous couper. Là, il y a déjà quelque chose qu'il faut remarquer tout de suite. C'est que il y a un amalgame qui est un amalgame totalement mensonger, parce que ce que Lenoir énumère dans sa définition, ses exemples d'exclus, ce sont des gens qui sont des exclus par leur propre volonté, ou des gens qui sont exclus par un phénomène qui est étranger à cette volonté. Rapprocher, par exemple, l'alcoolique, qui, après tout, est responsable de cette situation. C'est pas moi qui ai bu à sa place. Et le solitaire dans la ville, l'isolé dans la ville, qui, lui, est victime, effectivement, d'une situation.
Vous êtes exactement au cœur du sujet. Et d'ailleurs, il poursuit, René Lenoir. Il explique les choses dans le même article. Il explique, au passage, sa conception de la sécurité. Vous allez voir la relation. J'ai pensé que ça peut intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie. Il écrit « Le taux de criminalité a été multiplié par 4 en 25 ans, les vols à main armée par 10. » Et il dit... de point ouvrez les guillemets, leurs auteurs, si l'on peut dire, s'adaptent à leur matière, alors les auteurs de vol et de s'adaptent à leur manière à la société moderne. Mais des millions la fuient, donc fuient la société, ou s'en protègent. Donc vous voyez, les voleurs et les assassins,
eux ne sont
ils
pas
ne
des
volent exclus. Pas, ils n'assassinent pas, ils s'adaptent.
C'est ça.
Mais les autres,
ils sont exclus, ils sont en prison.
Les autres, les exclus, ils doivent, eux, se protéger de cette société malfaisante. Et voilà l'idée centrale. L'exclusion, c'est le fait de la société, parce que la société est nuisible. Et pourquoi est-elle nuisible? Parce qu'elle repose sur l'égoïsme et l'exploitation. Donc, lutter contre l'exclusion, c'est donc faire généreusement la guerre à la société, et c'est y inclure dans cette société, au besoin par la force de la redistribution de l'égalitarisme, ceux qui ne sont pas dedans. Voilà le thème de l'exclusion. Voilà cette nouvelle arme sémantique avec laquelle, vous parliez tout à l'heure, de gens qui se fichaient du monde, voilà, avec l'idée avec laquelle actuellement la majorité de la classe politique se fiche du monde. Je crois qu'il n'y a pas d'autres termes, s'il y en a d'autres, mais je ne veux pas le prononcer dans cette respectable antenne de Radio Courtoisie.
D'autant que je l'ai déjà fait.
D'autant, alors c'est pour ça que je rappelle, tout de suite, je dis à vos auditeurs que tout cela fera l'objet de nos conférences de demain. Et je fais de la pub, excusez-moi. Demain, de 20h30 à 22h45, dans les salons Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8e, sur le thème « L'exclusion doit-elle être au centre de la campagne présidentielle ?» Et nous développerons plus en détail, avec Henri Lesquin, président du Club de l'Horloge, ce thème.
Là, on peut pas être plus au cœur de l'actualité, puisque le quotidien La Croix titre ce matin... Il s'engage contre l'exclusion. Réunis à l'initiative de La Croix avec France Inter, Jacques Chirac, Lionel Jospin et Édouard Balladur se sont tous prononcés pour une loi d'orientation contre l'exclusion attendue depuis longtemps par les associations. Alors déjà, on peut faire remarquer une chose, c'est que quand on invite des gens à un débat sur l'exclusion et qu'on leur pose la question à la fin, est-ce que vous êtes pour ou contre l'exclusion, ça marche à tous les coups. On peut faire ça avec les avalanches aussi.
Alors, ce qui est navrant, c'est que La Croix remarque dans le colloque qu'elle avait organisé, Les trois candidats en question ont tenu le même discours, à peu de choses près.
Oui, mais ça, c'est pas étonnant.
Bien entendu, ils n'ont pas contesté la notion d'exclusion, sauf quand même, il faut le dire, Balladur qui dit qu'il vaudrait mieux parler des exclusions au pluriel, ce qui me paraît un progrès conceptuel important, en tout cas relativement important.
Balladur, pour le reste,
les propositions sont les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de donner plus d'argent aux associations humanitaires et de renforcer l'intervention sociale.
Un spécialiste de ce genre de rectifications qui sont beaucoup plus lourdes de sens qu'on ne veut bien le croire. Il y a quelque temps, il avait été reçu par une instance importante de la communauté israélite, et comme Chirac d'ailleurs, et il avait répondu cette chose qui lui avait eu beaucoup d'ennui. Chirac avait dit qu'il était contre le révisionnisme, c'était très clair, et Balladur avait répondu qu'il était contre le mensonge historique, d'où qu'il vienne. Et ce « d'où qu'il vienne » avait paru parfaitement superfétatoire. à ses auditeurs. Effectivement, parce que c'est une banalisation, ça a été considéré comme une banalisation du révisionnisme, ce qui est très très mal, bien sûr. Donc c'est un spécialiste de ça. Sur l'exclusion, lui, il parle pas de l'exclusion, il parle des exclusions, ce qui est beaucoup plus, au fond, proche de la vérité, puisque on vient de voir ça dans la liste donnée par Monsieur Lenoir. Il y a des exclusions qui sont des exclusions scandaleuses, je dirais. Il y a des exclusions qui sont des exclusions naturelles.
Le concept est difficile à analyser, en fait, parce que il repose sur une ambiguïté, comme toujours avec les socialistes ou ceux qui s'en réclament. Je ne parle pas spécialement de M. Balladur, c'est pas tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que toujours dans le même débat, on fait l'amalgame entre, dans une même idée, il y a toujours deux conceptions. Je m'explique, excusez-moi. Il y a des exclusions qui sont parfaitement normales. Prenons un exemple, si vous voulez. Lorsque vous épousez quelqu'un, par définition, au moment où vous l'épousez, vous vous engagez à exclure de votre vie sentimentale toutes les autres femmes, ou tous les autres hommes si vous êtes une femme et que vous épousez un homme. Donc cette exclusion-là, elle fait partie de la vie normale. Bien. Il y a, en revanche, des exclusions qui sont beaucoup moins normales. Lorsque, par exemple, on exclut du débat politique, comme ça a été le cas longtemps, un parti qui regroupe environ 4 millions, soit d'adhérents, soit de sympathisants, qu'on les exclut délibérément du débat politique, cette exclusion-là n'est pas normale. Elle n'est pas bonne pour la vie démocratique. Elle n'est pas légitime, en quelque sorte.
Oui, mais
ces deux exemples me permettent de montrer que, sur le même idée, vous avez deux conceptions. Oui. Et c'est sur l'amalgame entre ces deux conceptions que joue l'establishment actuel, si vous voulez, pour faire croire aux gens qu'au nom d'une fausse générosité, ils doivent partir en guerre contre toutes les exclusions. Or, on verra bien dans le on essaiera de démontrer, on démontrera demain précisément que cette façon de partir en guerre contre l'exclusion en général, c'est une arme en fait sémantique contre notre identité, contre notre peuple.
Je vais donner un autre exemple. Les chômeurs sont d'une certaine manière exclus du marché du travail. Bien, l'un des facteurs de cette exclusion, c'est le salaire minimum. Je ne dis pas que les salaires doivent baisser, etc., qu'il ne faut pas créer les conditions, notamment par le départ des immigrés, de la hausse des salaires. Je dis simplement que, toute chose égale d'ailleurs, lorsque l'État fixe un prix qui est le prix du travail, il exclut ceux qui ne peuvent pas être rémunérés à ce prix. Eh bien, les adeptes du refus de l'exclusion ne remarquent jamais que le salaire minimum est un facteur d'exclusion illégitime qui cause justement le chômage qu'ils prétendent combattre.
Alors, tout cela repose sur quoi, au fond? C'est toujours la même technique. C'est l'appel à la générosité, à la générosité latente chez l'individu, à la bonté, et au nom de la bonté, lui faire admettre en absolument n'importe quoi. C'est pas la première fois que ça se passe.
Je me demande si c'est pas le contraire, si c'est pas plutôt que l'appel à la bonté, une espèce de terrorisme qui consiste à dire si tu ne fais pas ça, tu es un salaud.
Oui, eh bien, ou à la culpabilité, si vous préférez. Si je ne prononce, si je ne belle pas avec tout le monde, je serai un salaud, je ne serai pas un bon. Parce qu'en fait, tout ça repose sur quelle est la réalité de toute cette affaire. Après 14 ans de socialisme sans partage institutionnel, et peut-être beaucoup plus sur le plan idéologique, si vous voulez, qu'est-ce qu'on voit en France? On voit la misère, mais une misère absolument scandaleuse, je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. On voit que des pans entiers du territoire échappent aux lois de la République, si vous voulez. C'est ça le réel. C'est comme, vous vous souvenez de cette publicité dans le cinéma de Monsieur Plus, vous l'avez peut-être vu si vous allez au cinéma. Ben le socialisme, excusez-moi de l'image, elle est peut-être un peu grossière, mais c'est quoi? C'est 14 ans, c'est plus de misère, plus d'insécurité, plus de chômage. Alors, devant cette réalité absolument incontournable, parce que les gens sont dans la rue, les Français sont dans la rue, sont dans le métro, ils mendient, si vous voulez, il faut trouver un écran. Et il faut trouver surtout un miroir pour renvoyer tout de suite sa culpabilité sur les autres. Alors, vous comprenez avec cette idée de l'exclusion, c'est l'exclusion qui est responsable. Oui, donc ce ne sont plus les socialistes. Si tout le monde est coupable, si c'est la société, cette méchante, abominable société qui est coupable, alors le socialisme n'est plus coupable. Voilà l'équation simple. Les malheureux sont exclus. Et voilà avec
vous
quoi
avez tout
on
à
se
fait
rachète.
Raison. Vous avez tout à fait raison. Mais alors on en arrive là au point crucial de toute l'affaire. C'est que, comme toujours, le pire, c'est l'adhésion des prétendus libéraux à cette énorme imposture socialiste. Parce que M. Jospin dise, c'est pas de la faute de 14 ans de socialisme si on en est arrivé dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, 6 millions de malheureux, des sans-abri, c'est pas du tout pour ça, c'est à cause de l'exclusion, qui est une espèce de truc qui est arrivé comme le sida. Un beau jour, on s'est mis à avoir l'exclusion. Bon, on sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et il faut lutter contre, bien entendu, par des manifestations comme le sida. C'est pareil, c'est d'ailleurs aussi efficace. Et donc c'est un propos totalement imbécile et totalement vicieux. Eh bien, vous avez M. Balladur, M. Chirac qui courent derrière en frétillant et en disant « oui, oui, oui », nous dit Lacroix, « oui, 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 il faut faire ». Alors l'un dit une loi d'orientation, l'autre dit une loi programme, l'autre dit encore une autre forme de loi, chacun a son idée. Parce qu'il croit qu'on va prendre des lois contre les contre l'exclusion, comme une loi contre le sida ou contre les avalanches. Il suffit de dire que c'est interdit, puis ça va s'arrêter. Ils ont fait l'expérience avec le racisme, on a vu d'ailleurs, ça s'est arrêté brutalement. À partir du moment où il y a eu les lois antiracistes en France, il n'y a plus eu aucun acte de racisme. Il suffit de regarder. C'est passé à 34, nous disait tout à l'heure Henri de Lesquin, ce qui est encore 34 de trop. Hein.
Oui, mais précisément, je crois que cela... D'ailleurs, je ferai même une référence encore plus ancienne, si vous permettez. Souvenez-vous de la fameuse réplique lors du débat présidentiel, d'un débat présidentiel précédent. Vous n'avez pas le monopole du cœur, l'un avait-il dit à l'autre, si vous voulez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous aussi on est gentils.
Oui, c'est ça.
Nous aussi on est bons, on est généreux, on est contre... Alors aujourd'hui, c'est nous aussi on est contre l'exclusion. Et je ne vois pas actuellement quelqu'un, si vous voulez, parmi les candidats de ceux qui se réclament de la droite... libéral ou de ceux qui se disent de droite, je n'en vois pas un qui dise véritablement votre concept est stupide parce qu'automatiquement on va lui dire mais alors vous êtes un salaud. Comment pouvez-vous?
Non, moi je crois qu'il n'appartient pas aux hommes politiques en général de faire un débat intellectuel ou d'avancer une argumentation sémantique ou intellectuelle. Je pense qu'en revanche, il devrait s'abstenir d'employer un vocabulaire truqué qui conduit à de fausses solutions. Je crois que lorsqu'on parle de refus d'exclusion, on oublie par exemple que la propriété, c'est par définition un droit exclusif de disposer des choses, et on est conduit par exemple à vouloir réquisitionner des logements pour y loger des immigrés clandestins. Voilà à quoi conduit le langage, le discours du refus d'exclusion.
Oui, et encore une fois, là, on est dans la démonstration on est dans l'impasse parce que on voit bien ce qui s'est passé. Vous avez pris l'exemple effectivement de l'occupation d'appartements par le DAL, association droit au logement, qui a occupé un immeuble rue du Dragon dans des conditions telles au moment d'une campagne électorale pour les présidentielles, ce qui fait que le Premier ministre et le responsable de la capitale ont été obligés de dire l'un et l'autre qu'ils ne feraient rien pour mettre un terme à cette occupation. Moyennant quoi, les gars ont dit, puisqu'on peut y aller...
Ouais, c'est une violation du droit de propriété.
Oui, d'accord, mais ils sont allés au 37 Malesherbes et ils ont fait la même chose, et il n'y aura pas de réaction, et moi, à leur place, je ferai exactement la même chose. Je vois pas la raison de s'arrêter à partir du moment où il n'y a pas de réaction des autorités. C'est exactement le processus qui avait été utilisé contre pour imposer la libéralisation et le remboursement de l'avortement, où des femmes ont dit, le manifeste des, je crois, c'était 343 ou quelque chose comme ça, qui avait dit, nous, ben voilà, on a fait ce crime, on a commis ce crime, maintenant essayez de nous inculper. Alors évidemment, quand on a un État en face de soi qui est un État sans entrailles...
Je crois qu'on a compris maintenant, depuis l'effondrement du communisme, que la propriété était nécessaire non seulement à la prospérité de l'économie, mais aussi à la liberté des hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de propriété qu'il y a une crise du logement en France, c'est parce qu'il n'y a pas assez de propriété.
Oui, c'est clair.
Et les interventions de l'État, ou même celles de la ville de Paris en l'occurrence, ne peuvent conduire qu'à des effets pervers qui dépasseront largement l'avantage dont vont jouir quelques dizaines de personnes lorsqu'on va réquisitionner un logement. On risque de détraquer encore plus un marché du logement qui est largement perturbé par des interventions multiples.
Mais Michel Blanzac, qui est très trop discret, qui ne le dit pas ici au micro, mais me faisait remarquer une chose, enfin plutôt évoquer une hypothèse il y a quelques jours dans une conversation qu'on avait, c'était que l'exclusion prend le relais dans l'arsenal de la subversion de la lutte antiraciste, laquelle avait elle-même pris le relais de la lutte des classes.
La lutte contre l'exclusion prend le relais de la lutte contre les inégalités. À partir du moment où le socialisme a dû composer avec le capitalisme et a dû accepter une bonne dose de liberté d'entreprise, donc les inégalités qui résultent inévitablement du jeu de l'économie et d'entreprise, eh bien, la gauche a été amenée à focaliser l'attention sur les cas extrêmes d'inégalité, c'est-à-dire sur ce qu'elle appelle l'exclusion, en présentant toujours ce malheur des hommes comme une conséquence générale des défauts de la société, et comme si jamais l'homme n'était responsable de son propre malheur. Et je crois que le refus de l'exclusion est un thème qui généralise en fait l'antiracisme. Bien entendu, la discrimination raciale sera présentée, ou toute politique raisonnable de maîtrise de l'immigration ou de refoulement de l'immigration sera présentée comme une vilaine manière d'exclure des gens qu'il ne faut pas exclure.
Toute politique de préférence nationale, d'une façon générale, sera...
Et on vous dira qu'il faut exclure ceux qui veulent exclure les immigrés.
Tout à fait.
Mais ça, c'est l'argument qui a servi... Co-naturel à la révolution, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Voilà.
On commence par désigner les ennemis de la liberté et on les prive de liberté. Et là, c'est la même chose. Il faut exclure ceux qui sont pour l'exclusion. Donc il suffit de dire celui-là est pour l'exclusion en trouvant dans son discours le moindre propos qui est porteur de soupçons et puis s'il n'y en a pas, on l'ajoute.
Et puis en plus.
J'ajouterais pour la clarification du débat, parce que j'ai une question d'un auditeur qui me demande de préciser le concept d'exclusion. Je crois qu'on ne peut pas le préciser, car c'est un faux concept, c'est un concept fourre-tout, un asile de la non-pensée, comme a dit Jean-François Revel, et on ne peut pas donner un sens précis à ce concept d'exclusion qui est fait pour tromper. En fait, l'opération sémantique est la suivante, on commence par appeler exclusion toutes les formes de malheur les plus diverses qui vont du chômage à l'infirmité en passant par la délinquance et l'alcoolisme, et on fait donc un amalgame de ces différentes formes de malheur, et ensuite, en parlant d'exclu, on présente la société comme coupable. Uniformément. Bien entendu, la société ou les hommes peuvent être coupables du malheur des autres, mais c'est un peu aller vite en besogne que de prétendre que jamais personne n'est pour rien dans son propre malheur. Y compris d'ailleurs, il faut bien le dire, le chômeur, qui n'est peut-être pas toujours, dans certains cas, il est tout à fait innocent de ce qui lui arrive, mais pas toujours.
Tout à fait, c'est plus qu'un principe, je crois que c'est un prétexte.
Le vagabond, on appelle aujourd'hui le vagabond un SDF, un sans domicile fixe. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on avait fait une législation extrêmement sévère contre le vagabondage. Et on ne larmoyait pas quand on parlait des vagabonds. On les considérait comme des délinquants en puissance.
Moi, je dirais, si vous permettez, pour compléter ce que dit Henri de Lesquin, c'est que finalement, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que l'exclusion que l'on condamne est toujours celle dont on prétend être victime. Jamais celle qu'on pratique soi-même, d'abord. Pratiquer le refus de l'exclusion, deuxièmement, c'est généralement le moyen d'acquérir un pouvoir d'intrusion. Quand je vous accuse de vouloir être pour les exclusions, je m'introduis dans votre dispositif de pensée, et je m'introduis éventuellement dans votre façon d'agir. Et puis enfin, c'est surtout le moyen d'exclure ceux dont on ne partage pas les opinions, si vous voulez, ou les convictions. Finalement, c'est un sophisme. Mais en tous les cas, c'est le masque d'une volonté de puissance. Je crois que c'est ça l'idée centrale, et c'est pour ça qu'effectivement, il est difficile de cerner le concept d'une façon précise, puisque c'est un concept flou.
Mais comment expliquez-vous, parce que vous êtes énarque, je crois aussi.
Nul n'est parfait. Alors,
vous allez me dire que...
Ancien élève de l'ENA en français.
Nous sommes tous les anciens élèves de l'École nationale d'administration.
Énarque est un village jargon fabriqué par Chevènement.
Ça vous plaît pas, énarque, hein.
Non, mais moi je ne défends pas l'ENA, je crois qu'il faudra supprimer l'école faite.
Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez avoir donc une espèce de, d'intuition, ou en tout cas une espèce de connaissance ou de compréhension plus pointue de certains mécanismes. Qui opère chez les gens qui sortent de la même école.
Je crois pas. Je crois que tous ceux qui ont été confrontés à un moment donné au réel par rapport à un discours idéologique, qu'ils aient ou non fait une école, un jour se rendent compte que le discours idéologique ne colle pas avec le réel qu'ils vivent. Les Russes, quand ils vivaient sous le joug soviétique, se rendaient bien compte au quotidien qu'il y avait quand même comme un léger décalage entre leur quotidien et leur réel avec le discours politique. Il n'y a pas eu 60 millions de soviétiques qui ont fait les ENA, enfin, à ma connaissance, en tout cas.
Non, mais justement, comment expliquez-vous les mécanismes par lesquels...
On en est un moins homme, monsieur.
Non, mais comment expliquez-vous les mécanismes par lesquels des gens qu'on peut raisonnablement supposer intelligents, comme Édouard Balladur ou Jacques Chirac, coupent dans cette imposture, marchent avec cette imposture.
Je crois qu'il y a deux raisons. C'est-à-dire, il y a premièrement une certaine complaisance vis-à-vis de l'idéologie dominante, et maintenant le thème central de la nouvelle idéologie dominante, c'est le refus d'exclusion. Et puis deuxièmement, un certain attrait de la technocratie, et les deux personnes que vous avez citées sont finalement issues de ce monde de la technocratie, un certain attrait de la technocratie, pour l'interventionnisme social fondé justement sur cette thématique du refus d'exclusion. Il ne faut pas oublier que le monsieur René Lenoir, qui a lancé ce terme, était lui-même... Oui, il a été directeur de l'ENA, mais il était lui-même haut fonctionnaire du ministère des Affaires Sociales, et en fait, il a lancé ce terme pour demander plus d'argent pour ses interventions sociales. L'idée est que quand les gens sont malheureux, c'est à l'État d'intervenir davantage. On ne se dit pas, c'est peut-être parce que l'État intervient trop, par exemple parce qu'il prend trop d'impôts aux entreprises, qu'il y a des malheureux, qu'il y a des chômeurs, etc. Non, il faut que l'État prenne encore plus d'impôts pour... intervenir au profit de ceux qui sont dans le malheur. Monsieur Chirac, dans ce colloque de lundi organisé par La Croix, a même déclaré sans rire, enfin je suppose qu'il n'a pas ri quand il l'a déclaré, du moins je n'étais pas là, qu'il fallait taxer les entreprises pour créer des emplois. Alors là, je dois dire...
Personne n'y avait pensé.
Je dois dire que, enfin, on y avait pensé avant lui, malheureusement, mais avec le résultat que l'on sait. Et vous voyez d'ailleurs un bon exemple, qui est le revenu minimum d'insertion. On l'a créé justement. L'insertion, l'intégration, c'est le contraire de l'exclusion dans cette logomachie. Et on a créé ce revenu minimum d'insertion, d'abord pour donner de l'argent à ceux qui ne font rien, et deuxièmement, théoriquement, pour les insérer. C'est-à-dire qu'on est censé les conduire jusqu'à une activité utile. Eh bien, en fait, les deux tiers de ces bénéficiaires s'installent en permanence dans l'assistance, et on est passé de 400 000 en 1989 à aujourd'hui 900 000 bénéficiaires du RMI. C'est-à-dire que cette politique saute, fondée sur le prétendu refus de l'exclusion, conduit à multiplier ce qu'on appelle les exclus. Et je vous garantis que si on applique les mesures qui ont été demandées ou proposées lundi à ce colloque, et si l'on fait une loi cadre, si l'on multiplie les interventions et les financements des associations et des administrations qui s'occupent des prétendus exclus, eh bien, on multipliera leur nombre.
Vous avez parlé tout à l'heure de Madame Laguiller. C'est quand même intéressant de faire le parallèle entre Monsieur Chirac et Madame Laguiller compte tenu de ce qui vient d'être dit. Puisque Madame Laguiller, je vous le rappelle, prône la réquisition des entreprises qui licencient. Donc c'est le même esprit. C'est le même esprit de cet interventionnisme forcené de l'État, si vous voulez, au nom du dirigisme étatique, précisément, qui permet effectivement n'importe quoi.
Oui, c'est-à-dire que, au fond, le discours contre l'exclusion, c'est une espèce de faveur dont on entoure n'importe quel baratin, quel qu'il soit, pour le mettre à l'abri de la contestation.
Je voudrais surtout, peut-être dire une évidence, mais je crois qu'il suffit de 2 minutes de réflexion pour comprendre qu'on ne peut pas refuser l'exclusion, point. On ne peut pas refuser l'exclusion en général. Sur la couverture du livre de Pierre Milan, il y a une clé. Ce n'est pas pour faire joli seulement, c'est pour faire comprendre que la clé est le symbole de l'exclusion légitime. D'ailleurs, le mot exclusion, étymologiquement, se rapporte à la clé qui ferme la porte de la maison, en latin. Eh bien, toute personne qui a une clé dans la poche et qui ne trouve pas sot de fermer la porte de son appartement quand elle s'en va, exclut. Elle exclut. Mais elle ne se considère pas comme perverse quand elle fait cela. Elle fait quelque chose qui est tout à fait légitime. Autrement dit, et puis on pourrait multiplier les exemples. Pierre Milan a parlé tout à l'heure du mariage, j'ai parlé de la propriété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ordre social en général, même un ordre communiste, si tant est qu'il puisse exister un ordre communiste d'ailleurs, peu importe, tout ordre social en général repose sur une dialectique de l'inclusion et de l'exclusion. Toute institution, le droit, la morale, la religion, repose sur cette dialectique de l'inclusion et de l'exclusion, c'est-à-dire sur une définition des exclusions qui sont légitimes et de celles qui ne le sont pas. Et on ne peut pas échapper à cette nécessité de tracer une limite entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Par conséquent, il est absurde et fallacieux de dire qu'on est contre l'exclusion. En fait, quand on dit cela, on veut simplement s'arroger le droit de dire ce qu'il est légitime d'exclure. C'est bien comme ça qu'en pratique, ce slogan a pu fonctionner, puisqu'il a été utilisé par la gauche pour diaboliser une partie de la droite et pour satelliser autre partie.
Je voudrais proposer des travaux pratiques à nos auditeurs. Il y a une expérience extrêmement simple qu'ils peuvent faire pour établir la frontière entre le discours et la réalité en ce qui concerne l'exclusion. Il suffit de lire et d'écouter les différents intervenants à propos de l'exclusion pour savoir, et ça n'est pas étonnant étant donné qu'il s'agit d'une société fondée sur la fraternité et la tolérance, que les francs-maçons sont vraiment en tête du combat, et avec quel enthousiasme, du combat contre l'exclusion. Et donc, voilà les travaux pratiques que je vous propose. Vous allez rue Cadet, c'est un quartier agréable au centre de Paris. Il y a un très bel immeuble, enfin très beau, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a un immeuble, disons, qui s'appelle le Temple, qui est le quartier général du Grand Orient de France. Vous vous présentez à la porte et vous dites « Bonjour monsieur, je suis bien au Grand Orient de France, oui. Je voudrais savoir si la franc-maçonnerie est contre l'exclusion. » Alors le gars, à 99%, je crois pas me tromper, va vous répondre « Mais non, pas du tout, on est bien sûr, on est tout à fait contre l'exclusion. Et comment ?» Bien, direz-vous à ce moment-là, alors je voudrais assister à ce que vous appelez une tenue dans un de ce que vous appelez vos ateliers, n'est-ce pas ? Et le gars va vous dire « Non, c'est pas possible, mais pourquoi ?» Parce que vous ne faites pas partie de notre société.
Ben voilà.
Et alors, ça veut dire que vous allez m'exclure. Non, on vous exclut pas, mais on vous empêche d'entrer. Donc c'est exactement ça. Voilà un petit exercice que vous pouvez faire. Je crois que ça sera définitivement significatif. Il y a un autre exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez aller, si vous avez des voisins qui sont, comme ça arrive, par exemple dans le 19e arrondissement, il y a beaucoup de cas de ce genre. Il y a une forte implantation d'israélites traditionalistes, et même on peut dire intégristes. Eh bien, vous allez voir un de ces messieurs, vous lui dites « Je voudrais entrer dans votre famille par les liens du mariage en épousant votre fille. » Et bien entendu, vous êtes contre l'exclusion. Bien sûr, va-t-il vous dire, mais il est exclu, vous épousiez ma fille, pour des raisons qui sont des raisons de tradition. Voilà. C'est parfaitement clair, là, je crois, avec ces petits exercices pratiques, on peut démontrer assez facilement que une société sans exclusion, c'est tout simplement, parler d'une société sans exclusion, c'est tout simplement parler pour ne rien dire, se moquer du monde.
Absolument, mais c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que tout repose en fait sur toute la technique politique consiste à faire l'amalgame, à pervertir le sens des mots et à faire l'amalgame. On fait un amalgame entre l'exclusion, comme le dit Henri de Lesquin, qui est légitime, et l'exclusion illégitime, on en fait une doctrine politique et on dit où vous êtes pour la lutte contre les exclusions et vous êtes dans le bon camp, ou vous êtes d'une façon où vous vous dites pour la discrimination et vous êtes méchant. Point. Et du moment que vous êtes méchant, vous n'avez plus droit à la parole, vous êtes d'entrée de jeu, vous avez un carton rouge, vous êtes exclu du débat politique, mais parce que vous êtes pour l'exclusion. Et c'est ce paradoxe que nous vivons actuellement dans le débat politique. Et c'est intéressant de voir, vous parliez des religions tout à l'heure, mais toutes les religions pratiquent l'exclusion, bien entendu. Rappelez-vous, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, monsieur de Wickett, mais citez la parabole du festin nuptial, par exemple, dans l'Évangile. Le roi dit au valet, jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup seront appelés, mais peu sont élus. Tout simplement parce que quelqu'un se présente au festin de noces sans la tenue de noces. Autrement dit, il n'est pas, par exemple...
Sauf que vous ne pouvez pas rentrer ni dans une synagogue, ni dans une mosquée, mais tout le monde peut rentrer dans une église.
Oui, on peut rentrer dans les synagogues.
Alors, à propos des
mosquées, il suffit de retirer ses chaussures.
À propos du Deutéronome...
Pas dans les pays musulmans, il ne pourra pas.
Que dit le Deutéronome ? Il ne laisse aucune ambiguïté sur le sort réservé aux ennemis d'Israël, l'esclavage ou la mort. Et je cite, lorsque tu t'approches...
J'ai le choix, quand même.
J'ai le choix. J'en cite une au hasard, si vous permettez. Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et te livre le combat, tu la siégeras. Yahvé ton Dieu la livrera en ton pouvoir, et tu en passeras tous les mâles au fil de l'épée. Toutefois les femmes, les enfants, le bétail, tous ceux qui se trouvent dans la ville, toutes ses dépouilles, tu les prendras comme butin. Alors je crois que ça c'est... L'exclusion c'est quand même intéressant. Et puisqu'on a parlé de la Bible, citons aussi le Coran, pour faire restons œcuméniques, si vous permettez 30 secondes d'être œcuménique.
Mais je vous en prie, bien sûr.
Alors voilà, le Coran, il impose de ne point fréquenter juifs et chrétiens, puisque dans la sourate 5, dites la table servie, voici ce qu'il écrit. « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont amis les uns des autres. Celui qui parmi vous les prend pour amis, aidez-leurs. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. » Donc, toutes les religions pratiquent, prônent l'exclusion, indiscutablement. Mais c'est naturel.
Nous sommes en Europe, nous avons vécu pendant un millénaire sur le principe des nations, si vous voulez. Et aujourd'hui, le concept de la nation est encore un principe extrêmement fort dans la population. Or, l'application politique de ce concept fallacieux de la lutte contre l'exclusion aboutit à quoi ? Aboutit en fait à corroder l'identité des peuples, aboutit à nier l'idée de nation. Puisque précisément, à partir du moment... Prenez par exemple, tiens, le slogan, j'y pense comme ça, le slogan de Monsieur Chirac, « La France pour tous ». Il est intéressant ce slogan.
Oh là là.
Si la France elle est pour tous, alors elle est pour tout le monde. Elle est pour les Allemands, elle est pour les Arabes, elle est pour les Algériens, elle est pour les Tunisiens, elle est pour les Maliens, elle est pour tout ce que vous voulez. Elle n'est pas uniquement pour ces malheureux indigènes qui sont ses citoyens. C'est intéressant, c'est le slogan du candidat à la présidence de la République. Et si on fait un 30 secondes, un petit regard, si vous voulez, en remontant, on s'aperçoit qu'au même moment où on tient ce discours de la lutte contre l'exclusion, au même moment, on prône une immigration sans contrôle, avec un soutien systématique des populations poussées par la misère à venir vers nos terres fertiles et notre civilisation riche, si vous voulez. Si au même moment, vous apercevez qu'on lutte contre le concept de nation, qu'on veut abolir les frontières, et l'exemple des accords de Schengen qui rentrent en application est là pour le démontrer, qu'est-ce que vous voyez ? Voyez bien qu'on assiste véritablement à un pilonnage de la conception de nation et de la conception d'identité des peuples. Et c'est ce pilonnage de sémantique contre lequel nous essayons de faire un tir, passez-moi l'expression, de contre-batterie.
Cela dit, ça va même encore beaucoup plus loin, parce que c'est même au nom de la non-exclusion, ou plutôt au nom de l'inclusion forcée, on en arrive à mettre en danger la survie même des populations. Je pense aux campagnes qui sont faites autour du sida. Le principe qui consiste à dire il ne faut pas exclure les malades, c'est d'abord un principe qui est contestable puisque on n'a pas encore établi, et il y a une grosse disputation là-dessus, les conditions exactes de la contagion, mais ça va encore plus loin dans le délire, parce que, si j'ose dire, le sida est une maladie à la mode, donc elle est exclue de l'exclusion. Hein. Mais si vous avez le malheur de passer votre examen prénuptial avec une bonne vieille syphilis des familles, eh bien là, ça ne se discute pas, vous êtes exclu. Il valait mieux avoir le sida, si j'ose dire. C'est quand même fou de penser qu'on en arrive degré d'incohérence.
C'était même les propos de M. Clodeva quand il était ministre de la Santé, qui voulait faire pratiquement un délit d'exclure précisément les sidéens.
Je ne sais pas si vous avez vu le rapport qui a été fait justement sur la diffusion du sida en France. Et ce rapport est très sévère pour les médecins qui ont été responsables justement de la collecte du sang à partir de 1983. Car à partir de 1983, dans le débat qui a eu lieu à propos des hémophiles, de la contamination des hémophiles, on a surtout parlé de l'année 1985. Mais en fait, le scandale, il commence en 1983, lorsque le directeur général de la santé, Monsieur Roux, le docteur Roux, qui était communiste d'ailleurs, mais peu importe, a fait une circulaire qui était juste, consistant à dire, eh bien, il faut sélectionner les donneurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les donneurs dans les groupes à risque, à savoir les homosexuels, les drogués, les noirs venus d'Afrique. Et vous voyez bien que cette simple description des groupes à risque était horrible. C'est exclure. Donc, la circulaire n'a pas été officiellement rapportée, mais elle n'a pas été appliquée. Et il y a même eu, alors c'est un cas d'incohérence et de cacophonie administrative admirable, si j'ose dire, plutôt aberrante et attristante, il y a une circulaire en sens inverse, qui a été prise par Madame Ezrati, qui était directrice ou directeur au ministère de la Justice, sous Monsieur Badinter.
Qui était la sœur de Monsieur Estier.
Et Madame Ezrati et Monsieur Badinter, donc, ont ordonné, ou plutôt ont prescrit, que l'on multipliât les collectes de sang dans les prisons. Or, ces collectes de sang dans les prisons étaient très commodes pour les centres de transfusion, parce que au mois d'août, quand tout le monde va en vacances, pour des raisons bien compréhensibles, les prisonniers n'y vont pas. Ah bon. Ils sont donc disponibles...
Pour l'instant.
Pas encore, mais parce qu'ils sont encore exclus de la société. Mais ils sont disponibles pour les prises de sang qu'on rémunère plus ou moins bien. Et évidemment, la population carcérale est une population où l'incidence du sida, la séropositivité est très élevée, pour des raisons bien compréhensibles, à cause évidemment de l'incidence de l'homosexualité, je dirais, occasionnelle, due aux circonstances, et également l'incidence de la drogue, de la toxicomanie. Donc c'était une folie. Vraiment, le groupe à risque par excellence, c'est la population carcérale. C'était une folie par conséquent de faire des collectes de sang dans cette population. Et par l'idéologie du refus de l'exclusion, en l'occurrence, est une idéologie mortelle. Elle a tué des milliers de personnes parce qu'on n'a pas voulu faire ce qui était fait ailleurs. Et le rapport en question que je citais a dit que les contaminations par suite de la transfusion ont été 10 fois plus fortes en France que dans les autres pays comparables. 10 fois plus fortes.
Mais parce que c'est
un véritable scandale. Il faut bien se rendre compte que la France était en progrès, était à la pointe du combat idéologique, puisque c'est elle, avec Monsieur Lenoir, qui a inventé la notion de refus d'exclusion. Eh bien, la conséquence a été tragique pour des milliers de personnes. Il faut savoir que les mots ne sont pas innocents, qu'il leur arrive de tuer.
Il y a un aspect supplémentaire dans ce que vous venez de dire, c'est que on s'aperçoit, effectivement, on n'y pense pas toujours, mais que cette idéologie, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle est appliquée efficacement, si j'ose dire, depuis plus de 10 ans. Parce que les événements dont vous parlez sont des événements qui ont une dizaine d'années.
1983, oui, on a su dès 1983 que le sida était dû à un virus et que ce virus était transmis notamment et principalement, semble-t-il, et même presque essentiellement, par la voie sexuelle et par le sang et par le sperme.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ça démontre que les élites, je mets des guillemets, la élite, était déjà totalement imprégné de cette idéologie. Exemple, Madame Ezrati, qui expliquait que l'un des modes de réinsertion du détenu pour qu'il n'ait pas l'impression d'être définitivement exclu du corps social consistait à lui prendre son sang, parce que c'était manifesté qu'il pouvait encore servir la société bien qu'il en ait été écarté. Cette idéologie de l'anti-exclusion, elle était déjà complètement présente dans les esprits il y a 12 ans.
Je voudrais insister lourdement, car on savait dès 1983, ça avait été écrit dans la presse médicale, et les pratiques des autres pays ont été conformes à ce qui avait été écrit. On savait dès 1983 qu'il fallait sélectionner les donneurs.
Non, c'est clair.
À l'époque, on n'avait pas de test, mais on savait qu'il fallait sélectionner les donneurs. Eh bien, en France, on a fait une circulaire qui disait qu'il fallait le faire. Or, cette circulaire n'a pas été appliqué. La circulaire de M. Roux n'a pas été appliquée. C'est un scandale.
C'est vrai qu'elle était dans les esprits, cette idéologie, mais de toute façon, elle avait des racines très profondes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'internationalisme. Bon, il est clair que dans l'esprit socialiste, au départ, il y a cette notion d'internationalisme. Et il y a aussi la notion du caractère considéré par les socialistes comme nocif de la notion de patrie. Si vous voulez.
Et ça, c'est relativement récent quand même, parce que vous prenez 19, enfin le Front Populaire avait initié, comme on dit maintenant, et conduit jusqu'à l'hystérie, il faut bien le dire. On le voit maintenant quand on revoit les bandes d'actualité de l'époque, une campagne jusqu'à l'hystérie, ou au moins jusqu'au délire, une campagne sur le thème acheter français, qui était parfaitement grotesque, parce que par les arguments utilisés, enfin qui était ridicule, mais qui était très clair. C'était non seulement il disait acheter français, mais on voyait dans les films, les petits films de propagande qui étaient tournés,
ce que je veux dire,
n'achetez pas étranger parce que c'est dangereux, parce que c'est pas bon, parce que les sardines espagnoles sont peut-être empoisonnées, parce que donc à cette époque-là, les socialistes n'étaient pas du tout gênés par l'idée de faire de l'exclusionnisme.
Vous avez raison, mais c'est vrai aussi que l'utopie, c'était l'internationalisme prolétarien, et c'est toujours le fait de sacrifier le réel à des utopies, si vous voulez, à une utopie qu'on ne peut pas atteindre et au nom de laquelle on massacre la vie quotidienne d'un certain nombre d'individus, quand on ne massacre pas les individus eux-mêmes. Avant, la lutte contre l'exclusion, c'était la lutte contre les inégalités. Lutter contre les inégalités, c'est le même principe. On n'arrivera jamais à lutter contre les inégalités, sauf à mettre tout le monde sur un lit de Procuste, ou alors sauf à obliger tout le monde à avoir le même poil, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, la même âge, etc., etc. Mais au nom de cette lutte contre les inégalités, on développe des politiques interventionnistes, on développe des politiques qui pèsent de plus en plus lourdement dans la vie quotidienne des gens, et nous parlerons demain dans notre conférence du fait, par exemple, que au nom de la lutte contre
l'exclusion, eh bien les petites vieilles françaises ne peuvent pas obtenir l'aide des Français ou des Françaises qu'elles souhaiteraient avoir, parce que si elles publient une petite annonce en disant demande d'âme de compagnie catholique européenne blanche blonde bleue etc, elle va avoir le MAP, la LICRA etc etc.
Et c'est... Mais si elle cherche un accrocheur musulman, il n'y a pas de problème.
Ah, bien entendu. Donc alors... informatique que cette petite vieille ait besoin d'un accrocheur musulman, ah, ça c'est autre chose.
Enfin, on pense qu'on peut.
Voilà, on pense qu'on peut. Mais vous voyez, c'est donc c'est toujours au nom. C'est bien pour ça que le titre de l'ouvrage Nouvelle expression de l'utopie égalitaire. C'est ce thème d'utopie égalitaire qui est à mon sens au centre du débat. Et c'est pour ça vous avez raison tout à l'heure de dire qu'en fait c'était déjà dans l'air, oui. Mais parce que c'était utopique, voilà. On est passé d'une utopie à une autre.
Et on est au cœur d'un des aspects de la pensée de gauche qui est l'exclusion. Tiens, c'est le cas de le dire, de la possibilité de penser que les choses existent parce qu'elles existent. Je veux dire, oui. Si vous êtes l'utopie égalitaire,
c'est le constructivisme.
Si vous n'êtes pas pour l'égalitarisme, ça veut dire que vous êtes pour l'inégalité.
Voilà.
Vous ne pouvez pas dire on n'est pas plus pour ou contre les inégalités qu'on est pour ou contre les avalanches.
Alors parce
ça
que
existe.
Vous ignorez, voilà, les inégalités, c'est le droit de vous couper. Alors vous, ouais, vous avez le droit dans ce cas-là. Si vous ignorez, vous avez le droit d'être rééduqué. Mais alors, si vous deux, après rééducation, si vous persistez à considérer qu'il y a des gens inégaux, alors là, vous êtes carrément quelqu'un à mettre dans un camp, ouais, à exclure, par définition. Mais c'est le même principe.
Ce qui est quand même extraordinaire, c'est la résistance de cette pensée au réel, qui c'est stupéfiant. Parce que, il suffit, quel que soit le sujet observé, si on prend par exemple le monde de la boxe, on a fait des catégories dans la boxe, et un poids lourd n'a pas le droit de boxer contre des poids plumes. Donc c'est une exclusion. Et il est évident que c'est une exclusion pour l'empêcher de gagner à tous les coups. Donc en plus, c'est une exclusion qui est négative.
Vous connaissez l'histoire des journalistes féminins de la presse sportive américaine?
Non.
Eh bien, figurez-vous que les athlètes américains, comme les athlètes français, se déshabillent après les matchs, après les parties de football américain ou d'autres sports. Et il paraît que c'est au moment justement où ils se déshabillent et ils se douchent qu'on peut recueillir les confidences les plus intéressantes pour des journaux sportifs. Et alors, évidemment, pour des raisons compréhensibles, on avait exclu les journalistes du sexe féminin des vestiaires des matchs de football américains. Et elles ont fait un procès, elles ont attaqué en justice la Ligue de football américain en faisant remarquer que c'était, je le répète, à ce moment-là qu'on pouvait recueillir les confidences les plus intéressantes et que par conséquent, c'était du sexisme et de la discrimination selon le sexe. Et elles ont gagné, donc elles ont obtenu le droit maintenant d'entrer dans les vestiaires et les douches des stades. Alors je ne sais pas quel est l'effet de cette intrusion, mais c'est sûr que maintenant, il n'y a plus d'exclusion.
Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que les journalistes mâles ont le droit d'aller hanter les vestiaires des femelles sportives?
L'histoire ne le dit pas.
Enfin, c'est dommage, parce que ce serait intéressant, aussi. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler.
Le Rotary de Californie a été condamné parce qu'il n'admettait que des hommes, et maintenant il doit admettre des femmes.
Oui. Ben voilà encore un exemple d'exclusion maçonnique. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas rentrer au Grand Orient de France. À propos de Rotary.
De toute façon, toute association, tout parti politique pratique l'exclusion. Monsieur Mélic, par exemple, en sait quelque chose au Parti Socialiste.
Oui.
C'est évident.
Il n'a pas encore été exclu.
Enfin, ça vient.
Non, mais lui-même a exclu la vérité de son discours.
Voilà.
Pierre Milan, alors, oui. Ou Henri de Lesquin plutôt, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément et un peu plus abondamment de ce qui va se passer demain?
Eh bien...
Oui, bien écoutez, c'est une conférence que Pierre Milan va donner sur le thème « L'exclusion doit-elle être au centre de la campagne présidentielle ?» Et comme vous l'avez compris, évidemment, il développera les thèmes de son livre « Le refus d'exclusion, nouvelle expression d'utopie égalitaire ». Cette conférence, ce débat, a lieu demain donc dans les salons Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8e, à partir de 20h30. On peut stationner au parking Hoche-Saint-Honoré, oui, je suis très précis, et on peut s'inscrire ou avoir des précisions à l'avance en téléphonant au Club de l'Horloge au 42 94 14 14, 42 94 14 14, mais on peut aussi, à la limite, se présenter sans s'être inscrit, je crois qu'il y aura des places. Donc jeudi 30 mars, demain, à 20h30, 9 avenue Hoche.
Quant au livre, alors, Pierre Milan, qui en a été le directeur, en voilà, quelque sorte, on a exposé le contenu, mais il faut peut-être indiquer quels sont les différents thèmes Et quels auteurs ont traité ces thèmes?
Tout à fait. Donc, un certain nombre de... Alors, c'est en fait une série de petits exposés, cursifs, avec beaucoup d'exemples, si vous voulez, sur chacune des facettes du problème de cette affaire, de cette arme sémantique, de la lutte contre l'exclusion. Et il est divisé en deux parties, les principes et le domaine d'application, en quelque sorte. Alors, dans les principes, il y a des textes d'Yvan Blot. Le texte d'Yvan Blot s'appelle « Le refus de l'exclusion, thème central de la propagande néo-socialiste ».
C'est un peu ce dont on vient de parler essentiellement ce soir.
Notamment. Mm-hmm. Notamment. On n'a pas assez développé, à mon avis, ce soir, mais c'est pas grave, le thème de la morale et de l'exclusion.
Il me reste encore quelques minutes et j'allais vous poser cette question parce qu'un auditeur, justement, nous dit « Mais c'est tout simplement un renversement de morale ».
Mais il a parfaitement raison.
Il a tout à fait raison.
Voilà. Alors, c'est une auditrice, d'ailleurs, pardon. Il faut rendre aux dames ce qui leur appartient. Je pense que quand on aura
L'idée générale, c'est de ce passage, c'est de démontrer qu'il est impossible de fonder une morale sur un principe d'inclusion généralisée. On ne peut pas faire une morale si on n'intègre pas précisément l'exclusion légitime à la fois dans sa vision du monde et dans son comportement. Et ça, c'est intéressant de le développer.
Et c'est traité par qui, ça, hein?
Par M. Didier Maupas, qui est le vice-président du Club de l'Horloge. Mm-hmm. Ensuite, il y a un texte intéressant de M. Bertrand Leménissier, qui est professeur d'université, sur discrimination, préférence et liberté. Je voudrais juste en citer une phrase, si vous permettez, parce que M. Bertrand Leménissier ne se départit jamais d'un humour qui me paraît intéressant. Je l'ai retrouvé simplement, voilà. Il explique que la discrimination, l'exclusion, la ségrégation sont des conduites de tous les jours. Elles révèlent nos préférences. Certains aiment les croissants, je lis, hein, d'autres les détestent. Or, le fait de détester les croissants prive le boulanger de revenus supplémentaires, c'est évident. Préférer une chose à une autre, ou quelqu'un à quelqu'un d'autre, ou encore une situation à une autre, est un acte de discrimination, d'exclusion, de ségrégation. Cet acte entraîne nécessairement un préjudice, dit M. Bertrand Leménissier. Il indique, par exemple, le fait que vous épousiez la femme que je convoite, vous, si vous l'épousez, vous, la femme que je convoite, moi, ben c'est une manière de m'exclure et de me priver des joies que j'aurais pu avoir avec elle, et etc. Donc un petit texte, il y a de l'humour, mais il y a aussi de la réflexion. Alors ensuite, les domaines d'application de ce... Monsieur Michel Leroy développe le thème de l'exclusion et de la religion. J'en ai cité tout à l'heure quelques passages, en citant les sourates, en citant le Deutéronome et en citant l'Évangile. Je développe pour ma part la notion d'exclusion et de sécurité. Charles Bécher...
Pardon de vous couper, à propos de l'Évangile, un auditeur n'est pas content du tout. Il dit que vous êtes Manès en personne... parce que vous accusez notre Seigneur d'avoir pratiqué l'exclusion.
Pas du tout. Il n'a pas pratiqué l'exclusion, notre Seigneur. Il a dit, il y a ceux qui pourront venir à moi s'ils se conforment à mon enseignement, et il y a ceux qui ne se conformant pas à mon enseignement resteront en dehors. Je dirais à cet auditeur, quand ce qui me concerne, je n'ai absolument aucun complexe de ce point de vue-là, puisque je fréquente moi aussi une église.
Une église.
Voilà. Et donc, Charles Bécher, qui est un économiste, développe le thème de l'exclusion et l'économie. Henri Desquin, tout à l'heure, en a expliqué un thème, notamment autour de la notion des abus du droit du travail qui provoquaient une exclusion vis-à-vis de ceux qui, du fait de ces abus du droit du travail, se trouvaient exclus du marché du travail. Et enfin, Henri Desquin, président du Club de l'Horloge, donc conclut l'ouvrage sur le thème de l'étatisme au cosmopolitisme à propos d'inégalité et d'exclusion. Donc, toutes les facettes, si je puis dire, conceptuelle et d'application du refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire, sont développées dans ce petit livre bleu, qui, à mon avis, est sans doute plus révolutionnaire que le petit livre rouge devenu un peu obsolète.
Et alors, il y a une question, je me demandais si quelqu'un allait la poser, et c'était certain. C'est une auditrice qui dit, mais dites donc, je voudrais bien savoir si le Club de l'Horloge pratique l'exclusion, que faut-il faire pour en faire partie?
Nous n'avons jamais exclu personne. Mais il est vrai que nous pratiquons la sélection à l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut cette personne nous écrive et elle rencontrera un membre du conseil d'administration qui discutera avec elle. Il faut d'abord qu'elle adhère en gros à nos idées générales, c'est-à-dire que si elle est membre de la lutte ouvrière et camarade d'Arlette Laguiller, eh bien nous l'exclurons en effet. Elle n'aura pas le droit d'entrer.
Donc madame, si vous voulez vérifier...
Il faut écrire donc au Club de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, 75 008 Paris 8e. 4 rue de Stockholm.
Merci Henri de Lesquin, merci Pierre Milan. Et
merci Serge.
À bientôt.
Lecache.
Alors je rappelle que demain vous êtes pour cette conférence.
9 avenue Hoche.
Voilà.
20h30. Le Salon Hoche.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, document d'archives du 29 mars 1995, rediffusé dimanche 6 octobre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Rebonsoir à ceux qui sont restés, bonsoir à ceux qui arrivent et au revoir à ceux qui sont partis. Dans cette deuxième partie d'émission, nous évoquerons avec Valrand Saint-Just, maître Valrand Saint-Just, deux sujets. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'affaire Jaja, l'affaire Samir Jaja, qui nous touche directement, puisque ça se passe au Liban, qui est quand même un petit bout de France, qu'on le veuille ou non. Ça concerne et ça met en danger la vie d'un ami, qui est Samir Jaja. Ensuite, nous parlerons avec Valrand Saint-Just de la griffe, dont il est l'un des avocats, et qui est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour la Défense de l'Identité Française et Chrétienne. Et puis, comme je l'ai annoncé, nous entretiendrons avec monsieur le docteur Tremblay. Nous aurons ce soir le troisième volet, en quelque sorte, du triptyque sur avortement, démographie et politique familiale. Mon cher Valrand, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui sont pas forcément plus informés que moi de l'affaire Jaja, la résumer, l'exposer ?
Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité parce que, je vous le dirai peut-être encore dans quelques temps, vous êtes les seuls, à part bien entendu le journal Présent et d'autres journaux amis, mais surtout Présent, à accepter que l'on parle de cette affaire, donc dans une radio ou un journal français, car à part cela, je le redirai peut-être, c'est le silence le plus total et un silence voulu et programmé, c'est absolument certain. Alors, puisque je peux m'exprimer un petit peu, pour les auditeurs, il faut peut-être retracer un peu le cadre, mais le plus rapidement possible. Samir Jaja a pris le contrôle des forces libanaises au Liban, c'est-à-dire du bras armé des chrétiens à l'époque, en 1986, après avoir résisté à une tentative de putsch du dénommé Eli Obeika. Ensuite, en 1989, il y a eu les accords de Taif au Liban, sous l'égide notamment de l'Arabie Saoudite et de la Syrie. Et accord de Taif qui mettait fin à une situation de guerre et qui essayait de reconstituer un peu politiquement le Liban. Samir Jaja a accepté ces accords de Taif, disant qu'il ne pouvait pas faire mieux à l'époque. Contrairement d'ailleurs au général Aoun qui lui les refusait et a alors déclenché sa guerre contre la Syrie et ensuite contre les forces libanaises. Mais Samir Jaja a dit, eh bien c'est ce qu'on peut faire de moins difficile à l'heure actuelle et je les accepte. Ensuite, dans les années qui ont passé, on lui a dit, vous allez pouvoir devenir ministre puisque vous avez accepté les accords de Taif. Et il a dit, je ne serai jamais ministre, je ne veux pas être ministre sous occupation syrienne. Ah bien, puisque vous ne voulez pas devenir ministre, il va falloir que vous quittiez le Liban, parce que vous commencez à nous ennuyer beaucoup. Et il a répondu, je ne quitterai jamais le Liban, contrairement à de nombreux Libanais de la communauté chrétienne, il n'a jamais quitté sa terre. Et à ce moment-là, le pouvoir en place au Liban en a conçu un vif dépit. Et nous arrivons à l'année 94, où une bombe est placée dans l'église de Zouk, à côté de Beyrouth, faisant de nombreux morts et de nombreux blessés. Juste après cet attentat de l'église de Zouk, les forces libanaises, qui s'étaient transformées en partis politiques, sont dissoutes parce qu'on leur impute cet attentat de l'église de Zouk, et nous connaissons en France ce genre de provocation et de manipulation.
Oui, Zouk, donc, c'est un peu Carpentras.
Zouk, c'est Empire, oui, c'est Carpentras.
Oui, Empire.
Et là, ils sont parvenus, ils ont dissous les forces libanaises, ils ont arrêté dans les semaines qui ont suivi plusieurs centaines de militants des forces libanaises.
Pardon, Valentin, juste, quand je dis que c'est un peu Carpentras, il ne faut pas prendre ça comme une caricature. C'est bien pire que Carpentras, parce qu'en fait, c'est un peu comme si on avait accusé le Front National d'avoir saccagé un cimetière militaire de la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà,
c'est ça. Parce que là, il s'agit de chrétiens qu'on a accusés d'avoir...
De chrétiens militants,
placer
une bombe dans une église.
Dans une église au moment du...
Et la bombe a explosé en plein milieu de la messe, d'ailleurs. Mais on ne fait pas pire.
C'est l'accusation la plus atroce qu'on puisse porter.
Voilà. Alors, le processus se continue et on arrête Samir Jaja. On lui dit, d'ailleurs, des officiels, dont il donnera le nom, d'ailleurs, un jour, lui disent, si tu es Samir Jaja, il faut que tu partes ou que tu restes debout. Et puis il a attendu ceux qui sont venus l'arrêter d'une façon d'ailleurs très noble. Et depuis le 21 avril 94, il est en prison et il est accusé non seulement maintenant de l'attentat de l'église de Zouk, mais aussi de l'assassinat de toute la famille Chamoun, Dany Chamoun, sa seconde épouse et ses deux petits-enfants en 1990. Alors le procès, l'instruction du procès a été extrêmement rapide. Le procès a commencé en novembre dernier et la famille, Samir Jaja et sa famille ont demandé à moi-même et à Maître François Patrimoniaux de venir les assister comme avocat français. Alors je suis déjà venu ici à Radio Courtoisie pour en parler. Je ne vais pas parler du début du procès, je vais plutôt parler de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails du procès lui-même, c'est-à-dire des très nombreux témoins que l'on entend, où l'on revoit tous ces événements et toute l'histoire du Liban depuis au moins une dizaine d'années. Il y a un témoin qui est venu, par exemple, qui s'appelle Karim Pakradouni, qui a écrit beaucoup de livres, qui est un homme d'une grande culture et qui était un des membres éminents des forces libanaises et qui est venu nous entretenir de façon très intéressante pendant au moins une heure de toute l'histoire du Liban depuis une dizaine d'années. Il faut qu'on sache, il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie sachent qu'à mesure que le procès avance, la confusion des accusateurs se fait de plus en plus grande. C'est-à-dire que l'innocence de Samir Jaja et des autres inculpés est de plus en plus démontrée s'il avait besoin de l'être, mais que, au contraire, le procès se retourne contre ceux qui l'ont initié. En fait, on n'a pas osé tuer Samir Jaja et on a cru pouvoir l'éliminer politiquement par le biais d'un procès stalinien comme celui-là. C'est un mauvais calcul. En tout cas aujourd'hui, car ça se retourne encore une fois contre leurs auteurs. Il n'est que de voir ce qui s'est passé il y a un mois, où le gouvernement avait organisé une messe à Zouk en commémoration de l'attentat, et où le patriarche maronite, à ce moment-là, le cardinal Sfer, a dit « Puisque ce sont ces gens-là qui organisent cette messe-là, moi, je vais dire ma messe de 9h, alors que la messe de Zouk était à 11h, ma messe de 9h au patriarcat à Berkay, pour les forces libanaises. Le simple fait de l'avoir dit et le bouche à oreille a fait réunir 3 000 à 4 000 personnes des forces libanaises à Berkay. Setrida Jaja et le cardinal y ont été acclamés et le pouvoir n'a pas supporté. Il ne supporte pas non plus que la plupart des témoins à charge à l'heure actuelle se rétractent, disant haut et fort qu'ils, s'ils ont dit des choses à charge sur Samir Jaja ou sur les autres pendant l'instruction, c'est sous la torture. C'est vraiment sous la torture. Et il ne le supporte pas et les réactions actuelles sont extrêmement violentes. Alors, François Patrimonio est au Liban à l'heure actuelle. Moi, j'y suis allé une quinzaine de jours. Et quand nous sommes rentrés, nous avons essayé d'organiser avec nos moyens ce que nous avons appelé une très grande conférence de presse pour essayer de dénoncer tout cela. On avait invité chez Maître Biagi plus de 25 organes de presse. Résultat des courses, si tu me permets cette expression, zéro participant à cette conférence de presse. Et pourtant, nous avions des choses à dire. Lesquelles? Très rapidement. Eh bien, à l'heure actuelle, lorsque les témoins se rétractent, à l'audience, lorsqu'ils ont le courage de se rétracter, ils sont arrêtés immédiatement à la fin de l'audience, jetés dans un véhicule militaire, envoyés au ministère de la Défense, torturés toute la nuit, et le matin, éventuellement, ils signent une déposition selon laquelle, s'ils se sont rétractés à l'audience, c'est parce que Maître Intel, avocat de Jaja, est venu le voir, ce témoin, et l'a soudoyé, a fait des pressions sur lui, ce qui est vraiment le monde à l'envers, pour qu'il se rétracte à l'audience. En conséquence, on s'attaque aux avocats. Et ils ont voulu faire de graves ennuis à un des principaux avocats béroutins et un des principaux avocats de Jaja, qui est vraiment un des plus grands pénalistes du Liban, et ses avocats de Beyrouth ont un talent extraordinaire et une force extraordinaire. Ils ont voulu lui faire des ennuis très graves. Pour le moment, ça n'a pas réussi. Ils ont par ailleurs arrêté un très grand nombre de jeunes des forces libanaises qui sont autour de cette Rida Jaja et qu'ils poursuivent aussi pour avoir fait des pressions sur les témoins. Ils accusent cette Rida Jaja, la femme de Samir Jaja, qui est d'un courage absolument extraordinaire, d'essayer de racketter des personnes pour obtenir de l'argent. Enfin, tout est bon. Et le dernier incident, d'ailleurs, qui ne fait bouger personne en France, hein. les avocats français pourraient se solidariser, rien du tout. Eh bien, un journaliste du Liban, et pas un des moindres, puisqu'il présente à peu près tous les soirs le journal télévisé sur une des principales chaînes du Liban, a été arrêté parce qu'il avait été éventuellement assez favorable aux forces libanaises dans ses journaux télévisés. Il a été arrêté, je crois qu'il a été soumis à très mauvais traitement, il a été libéré maintenant, mais donc les témoins, les jeunes des forces, les avocats, les journalistes, on est vraiment sous le régime d'une police secrète militaire là-bas.
Alors comment expliquer l'extraordinaire lâcheté de la presse et du barreau français?
En fait, du barreau français, pour le moment, je n'ai pas encore véritablement saisi. Tout ce que j'ai fait vis-à-vis du barreau français au jour d'aujourd'hui est resté lettre morte. Notre véritable réaction depuis 15 jours, ça a été l'organisation de cette conférence de presse qui est, il faut le dire, complètement tombée à l'eau. Hein. On essaye par d'autres moyens, on a essayé ce moyen-là, il fallait le faire, c'est complètement tombé à l'eau.
Il ne s'agit pas de marxisme, je veux dire, il ne peut pas y avoir de complicité idéologique fondée sur le marxisme. Les tortionnaires de Jaja sont des collabos des Syriens, mais ce sont pas des marxistes.
Non, non,
que je sache.
Non. Moi, je pense que le gouvernement français a subi des pressions considérables pour faire en sorte qu'on ne parle pas de ce procès. Et nous savons, et tu le sais très bien, Serge, qu'il suffit de 4 ou 5 coup de téléphone de la part de responsables politiques français dans les principales salles de rédaction françaises pour que, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau coup de téléphone, on ne parle pas de tel ou tel sujet. C'est absolument certain. Et puis, on peut aussi parler du conformisme ambiant. Peut-être aussi est-on dans la campagne présidentielle. Mais enfin, moi, je suis véritablement sidéré de voir que dans un pays civilisé comme le Liban, ou qu'il l'était de façon extraordinaire, qu'il l'était autant que notre pays il y a 20 ans, enfin bon, c'est pas refaire le tableau, il se passe de telles choses que l'on peut qualifier de procédés véritablement moscoutaires et dictatoriaux à l'égard d'accusés, à l'égard de témoins, à l'égard d'avocats, à l'égard de journalistes, et que
personne ne dise rien. Nous ne devrions même pas avoir à réagir, on ne devrait pas avoir à rentrer en France et à dire quoi que ce soit. Ça devrait se faire naturellement. Tous les envoyés spéciaux du Monde et du Figaro ont quitté la place depuis très longtemps pour ne pas avoir mauvaise conscience et ne pas et se mettre un bandeau sur les yeux et des boules cuillesses dans les oreilles. Alors je suis tout à fait frappé de ce silence. Dernier petit incident que je peux relater. Lorsque, à une des dernières audiences, il y a 15 jours, lorsque j'y étais, le matin dans la presse, qui est assez libre, d'ailleurs au Liban quand même, était parue la nouvelle de ce que les avocats étaient mis en cause pour avoir fait des pressions sur les témoins. Et j'avais pu prendre la parole devant la Cour de justice, et j'avais vigoureusement protesté contre ce fait-là. Alors, j'avais eu un certain impact, notamment auprès des avocats de la partie civile, et c'était un détail un peu amusant, un des avocats de la partie civile, ensuite dans les couloirs du palais, a dit à Maître de Saint-Just, l'avocat français, finalement, dans ce procès, et on le voit bien, il est aussi utile que le serait un évêque à la Mecque. C'est une expression libanaise. Alors, j'ai vigoureusement là aussi protesté, parce que non seulement c'est une petite attaque à mon égard. Est-ce que les attaques à mon égard seront plus importantes? Je ne sais pas. Ça voudrait dire que notre présence, qui est symbolique, prendrait de plus en plus d'importance, et j'en serais évidemment très satisfait de ces attaques. Alors, voilà ce qu'il faut savoir. Je crois véritablement que nous devons nous informer sur ce procès, faire connaître ce qu'il en est, et encore une fois, je veux rendre hommage à Radio Courtoisie et à ton émission du mercredi, et au journal Présent, qui sans relâche font connaître auprès des Français et auprès des Libanais, qui sont très nombreux en France, ce qui se passe réellement à l'heure actuelle dans leur pays.
Un auditeur nous dit, il le présente comme une hypothèse et il en demande l'éventuelle confirmation. Monsieur Chirac aurait les liens les plus amicaux, les meilleurs liens du monde avec le président libanais Hariri. Est-ce que ça pourrait pas expliquer l'absence totale de réaction de la classe politique française?
C'est très possible. Il est très possible que ce Chirac ait besoin à l'heure actuelle de beaucoup d'argent.
Bien. Alors, parlons de... Oui.
Oui, moi j'ai deux questions. Je ne sais pas si je dois y répondre et les prendre. Il y en a une qui me dit pouvez-vous préciser les journaux et les journalistes qui ne sont pas venus à votre conférence? Non, parce que ce serait trop long. Nous avons invité tous les
hebdomadaires.
Voilà, c'est ça. La radio, la télévision, etc., etc. Pas donner la liste, mais tous ceux qu'on trouve dans les kiosques généralement. Non, ils ne sont pas venus. Il y en a une autre question qui dit le Liban, hélas, ce n'est pas l'Algérie, car il n'intéresse personne. Qui est derrière toute cette histoire? Un parti, le mondialisme, les Américains? Maître de Saint-Just devrait nous dire qui a intérêt à manipuler tout cela. Ce serait trop long d'essayer de faire l'exégèse exacte de cette manipulation. Moi, je ne veux pas toujours prêter. Je crois que même c'est peut-être la paresse de beaucoup. Le fait que on s'est trop intéressé au Liban pendant un certain temps et que maintenant,
sans résultat d'ailleurs, c'est ça aussi.
Sans résultat.
C'est cette mobilisation dans laquelle on a été tenu pendant des années pour aboutir à cet abandon du Liban sous la botte syrienne. Menace israélienne, sans aucune réaction.
Mais les choses ne sont jamais perdues. On pourrait dire, oui, aussi en France, le combat est perdu, restons dans notre ligne, ne faisons rien. Les choses ne sont jamais perdues. Je vais dire une dernière chose sur le Liban, à moins que tu aies d'autres questions à me poser. Mais moi, ça m'a frappé. Mutatis mutandis, pour être un peu pédant, si tu me le permets.
C'est la moindre des choses.
Samir Jaja, c'est le Pen libanais. C'est-à-dire que c'est un homme extrêmement courageux, qui n'a jamais reculé, qui sort d'un milieu social qui n'est pas celui de la grande société chrétienne, et qui est rejeté par toute une partie, même par une grande partie de l'establishment libanais. Ça aussi, il faut le savoir. Établissement de libanais qui existe aussi dans la société chrétienne libanaise, comme dans la société sunnite ou dans la société chiite. Et à l'intérieur de son pays, donc, ou même à l'intérieur de la communauté libanaise chrétienne, Samir Jaja a eu beaucoup de mal et c'est donc un homme extrêmement courageux qui n'a jamais baissé sa garde, qui n'a jamais hésité à se battre et à dire ce qu'il fallait. Et ceci donc explique peut-être cela. Nous connaissons cela en France, bien que nous ne soyons pas en guerre et que nous n'ayons pas trop qu'il soit en prison ou accusé de procès staliniens comme l'est Samir Jaja, mais nous connaissons aussi cela un peu en France. Donc, ce que je vois, moi, au Liban, me sert aussi beaucoup pour notre combat français.
Eh bien, puisque on parle du combat français, on pourrait peut-être évoquer donc la situation de la Griffe, dont tu es un des avocats, et qui est, je le rappelle, l'Alliance Générale contre le racisme et pour la défense de l'identité française et chrétienne, c'est-à-dire une association qui est reconnue par les tribunaux comme pouvant ester en justice chaque fois que une attitude de racisme anti-français est établie.
Alors, pour parler de la Griffe, que je pense que les auditeurs connaissent parfaitement, le plus intéressant est peut-être de parler des derniers développements et des derniers procès. Il y en a eu des résultats, nous avons eu des résultats récents et significatifs. Le dernier, qui n'est peut-être pas tout à fait le plus intéressant, mais c'est quand même la condamnation à des peines pénales et à des dommages et intérêts de Charlie Hebdo, qui avait présenté, enfin qui avait fait l'amalgame il y a à peu près une année entre le pèlerinage Chartres-Paris et le nazisme. C'était un amalgame clair et le tribunal a été extrêmement sévère contre Charlie Hebdo. La décision la plus significative qu'a obtenue la Griffe là, ces dernières semaines, c'est la condamnation de Monsieur Ginevski. Ce Ginevski est un écrivain d'origine israélite qui est un membre important de la communauté israélite française et qui avait écrit un article il y a quelque temps dans le quotidien de Paris après l'encyclique Splendor Veritatis de Jean-Paul II, très critique à l'égard de cette encyclique, mais il en a tout à fait le droit, mais simplement la fin de son article était celle-ci, et c'était un peu quand même dans tout le droit fil de son article, l'encyclique du pape est la quintessence de la doctrine chrétienne, et nous savons que cette doctrine chrétienne, notamment de la nouvelle alliance qui vient accomplir l'ancienne alliance, cette doctrine chrétienne est celle qui a conduit directement aux horreurs du camp d'Auschwitz. Alors, on a eu une audience tout à fait extraordinaire contre M. Ginevski. Les magistrats de la 17e chambre étaient finalement extrêmement intéressés par ce dossier. Le procureur de la République, Madame Dubreuil, qui est pourtant à la pointe du combat dit antiraciste au sein du parquet de Paris, étant extraordinairement sévère à l'égard de Monsieur Ginevski, Monsieur Ginevski faisant venir des témoins qui se sont tous retournés contre lui, lui disant la doctrine de l'accomplissement de l'ancienne alliance par la nouvelle alliance, c'est la base de la doctrine de l'Église catholique, elle ne peut être acceptée, elle n'a jamais conduit au camp d'Auschwitz. Et il faut faire une très grande différence entre l'antisémitisme nazi et un certain antisémitisme, un anti-judaïsme théologique chrétien, et M. Ginevski a été condamné sévèrement pour avoir dit cela. Alors c'est extrêmement intéressant parce que on peut relier quand même ce procès qui, je crois, a beaucoup déplu dans certaines sphères, la condamnation a beaucoup déplu dans certaines sphères, on peut relier ce procès à celui qui est fait à Monsieur Junin par la LICRA et que je plaide lundi prochain devant la cour d'appel d'Agen. Monsieur Junin s'étant simplement permis de rappeler dans un journal que les Juifs avaient une certaine responsabilité dans la mort du Christ. Et je te dis en un instant comment j'ai gagné le procès devant le tribunal de Cahors. C'est à l'aide du livre de Jacques Duquesne, Jésus, qui était paru 8 jours avant l'audience à Cahors, je l'ai acheté, je suis parti avec à Cahors, ma valise pesant donc un peu plus lourd, et j'avais feuilleté ce livre, et monsieur Duquesne, tout vilipendé qu'il est, même par les évêques français, ce qu'il faut, c'est vraiment extraordinaire, monsieur Duquesne dit noir sur blanc, et alors finalement, qui est responsable de la mort du Christ? Et il écrit ceci, deux points, vous voyez, guillemets, les juifs certainement, les romains aussi. Enfin, c'est l'évidence même. Donc j'ai gagné mon procès à l'aide de monsieur Duquesne, mais la LICRA, qui avait été condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, a fait appel, et nous plaidons le procès en appel, jeudi à Agen. Mais tout cela nous amène, et je pense que tu en parleras d'ailleurs avec Marc Dem, à cette accusation de la LICRA qui engage le procès, d'ailleurs en référé, hein, c'était dans un journal ce matin, contre la Bible gauchiste pourtant, car c'est la traduction d'une Bible de la théologie de la libération sud-américaine qui a été éditée par Monseigneur Thomas, l'évêque de Versailles.
Oui, mais c'est comique parce que Monseigneur Thomas est l'évêque franc-maçon,
enfin, c'est tout à fait
qui fait éditer une Bible cubaine marxiste, tout à fait partisan, enfin tout à fait fondatrice de la théorie de la théologie de la libération. Et tout ça est attaqué au nom de l'antisémitisme. C'est-à-dire que, effectivement, on est là exactement dans le cas d'espèce de l'inversion diabolique. Oui. C'est le chien enragé qui mord ses propres plaies.
Oui.
C'est tout à fait extraordinaire.
Mais voir la figure de Monseigneur Thomas lorsqu'il est obligé de faire la mamme est quand même tout à fait extraordinaire. Enfin,
c'est surtout qu'il a été pris en flagrant délit de mensonge, sauf le respect que je dois à sa
ça serait pas la première fois. Oui.
Parce que il avait proféré au moment de l'édition de cet ouvrage les plus vives félicitations aux auteurs. Il avait souligné combien leur travail était magnifique, etc. Ouais, ouais. Et là, il a été obligé de dire qu'il avait donné son imprimature parce qu'il n'avait pas lu.
Voilà, exactement.
Et donc, de deux choses l'une, où il l'a lu, il le trouve formidable, où il ne l'a pas lu, mais il ne peut pas le trouver formidable ne l'ayant pas lu.
Ouais.
Je dirais que ce qui est encore plus intéressant dans cette affaire, c'est que les éditeurs de cette Bible réputée antisémite, qui était en fait surtout un outil de conscientisation des masses, ont trouvé le moyen, enfin plutôt ont fait le deuil de leurs bénéfices dans cette affaire.
Ah oui, c'est fini.
Mais même avant, ils avaient déjà fait le deuil de leurs bénéfices, si bien que cette Bible était la moins chère que l'on pouvait trouver sur le marché. Ce qui fait que des centaines de curés en France, qui s'occupent notamment des enfants, des jeunes, comme on dit maintenant, ont dit à leur catéchumène, vous devez acheter donc cette Bible, sans avoir constaté que c'était une Bible qui était comment dirais-je, qui propageait les idées de la théorie de la libération, et évidemment sans avoir remarqué qu'elle était susceptible d'être poursuivie par la LICRA pour antisémitisme. C'est donc une des Bibles à l'heure actuelle les plus répandues en France parce que c'est la moins chère.
Alors il faut la rappeler et la mettre entièrement.
Alors il faut la rappeler, il faut faire comme avec les voitures qui ont des défauts dans les amortisseurs. Ouais. Il faut la rappeler.
Et alors, cette affaire de Bible, et puis j'en ai fini, c'est l'application de l'adage que rappelle souvent Jean Madiran. Odie Miki, crasse tibi. C'est-à-dire, moi aujourd'hui
et toi,
demain, toi. Ah ben, oui, les traducteurs de cette Bible et Monseigneur Thomas, c'est leur tour. Mais nous ne pleurerons pas.
Merci, mon cher Valent. On rappelle quand même l'adresse de la Griffe, 70
boulevard Saint-Germain, Paris 5e.
Merci. À propos d'exclusion, nous dit un auditeur, les musiciens français sont toujours exclus dans leur propre pays. Après un Israélien, un Coréen, c'est un Américain qui va prendre la direction de l'Opéra Bastille. Voilà. Marc Dem, êtes-vous avec nous? 30 secondes. Il est avec nous, mais on a un problème de connexion. Allô, Marc?
Oui.
Voilà, bonsoir, Marc. Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre, mais je ne savais pas que vous étiez déjà là. Vous avez certainement entendu les derniers propos.
J'ai entendu les derniers propos de notre ami de Saint-Just.
Alors, pardon. Je vous en prie, ils rejoignent.
Oui, c'est ce. J'allais justement en parler. J'allais en parler pour dire ceci, que tant qu'elle a été en vente, je ne sais pas si elle est tout à fait retirée de la vente, mais on a imposé un petit fascicule pour montrer la nouvelle position de l'Église vis-à-vis du judaïsme. Et ce nouveau, ce fascicule est très intéressant, car il contient des rapports de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Cette commission qui était présidée par le cardinal Wilbrandt. Et c'est très instructif, je ne l'avais jamais lu de près, là je l'ai fait. On trouve ceci, vous savez, si vous référez à l'évangile, eh bien vous avez tort, parce que voici ce que dit le cardinal Wilbrandt, en accord avec sa commission et avec les juifs qui l'a composé, comme avec les chrétiens, les catholiques. Il dit ceci, « Les évangiles sont le fruit d'un travail rédactionnel long et compliqué. Il n'est donc pas exclu que certaines références hostiles ou peu favorables aux juifs aient comme contexte historique les conflits entre l'Église naissante et la communauté juive. Certaines polémiques reflètent des conditions de rapport entre juifs et chrétiens bien postérieures à Jésus. Cette constatation reste capitale si l'on veut dégager le sens de certains textes des évangiles pour les chrétiens d'aujourd'hui. » Autrement dit, si lorsque Jésus s'écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, sépulcre blanchi et tout ce qui suit », ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est un règlement de compte postérieur à lui, postérieur à la mort de Jésus, entre les chrétiens et les juifs.
C'est ce qu'on pourrait appeler les proto-nazis, parce qu'il y a eu les nazis, maintenant il y a les néo-nazis, mais avant il y avait les proto-nazis en quelque sorte.
Oui,
ça, voyez, c'est assez... Qui étaient les rédacteurs de l'évangile.
Oui, alors on comprend que maintenant, les forces de pression judaïques ne soient pas contentes de voir qu'une Bible ne tient pas compte de ces choses-là.
Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est une bonne explication. Il est intelligent, ce Wilbrandt. C'est simplement dommage que les frères The Huro Brothers, qui sont les deux rédacteurs de la Bible en Titi, n'aient pas été au courant des écrits de Monseigneur Wilbrandt.
C'est surtout Bernard, l'auteur de cette Bible, et il était là-bas en Amazonie, en Argentine. Donc dans la Pampa, il ne recevait peut-être pas tous les jours l'Osservatore Romano.
Ah oui, c'est ça. Donc voilà, c'est de la faute à la poste, en réalité. Ouais. Bien, autre chose ?
Autre chose, la fois dernière, nous avions dit que le cardinal Hume, enfin je prononce comme je peux, l'archevêque de Westminster, avait fait l'éloge de l'homosexualité. Hein? Si, c'est carrément...
L'éloge L'apostrophe, oui, ça n'a rien à voir avec les francs-macs.
Non. D'accord. Pas cette fois-ci. Et il avait dit clairement, aimer quelqu'un d'autre, qu'il soit du même sexe ou d'un sexe différent, c'est entrer dans le domaine de la plus riche expérience humaine. Mais voilà que ça se répand. Il y a deux évêques en Italie qui vont plus loin encore. Par exemple, l'évêque de Savone, qui dit...
Dieu me savonne, bien entendu, dans la devise de Dieu me savonne.
C'est pas sérieux, Serge.
Pardon.
Elle dit ceci, l'Église présente l'idéal du mariage chrétien, c'est-à-dire le mariage d'un homme et d'une femme.
Oui.
Mais elle n'oblige personne à faire ce choix. Et en même temps, elle respecte celui qui en fait un autre. Et il ne s'agit pas de celui qui reste célibataire, il s'agit de celui qui est quelqu'un du même sexe.
Une chèvre, une... cactus, enfin n'importe quoi, chacun son truc. Ils sont complètement givrés, ces mecs-là, il faut dire. Hein. Je sais pas, ils devraient quand même vérifier le périmètre de leur mitre, parce que je me demande si c'est pas ça qui fait un peu pression et qui bloque l'irrigation du cerveau.
C'est très possible.
Hein. C'est effrayant. Alors, essayez de nous donner une bonne information.
Alors, j'en ai quand même une petite nouvelle, mais enfin, qui n'est pas sans intérêt du tout. Une bonne nouvelle, ça se passe en Allemagne. Nouvelle nomination d'archevêque, l'archevêque de Bamberg en Bavière, c'est Monseigneur Karl Braun qui a été nommé par le pape. Et Monseigneur Karl Braun, ce qu'il a de particulier et d'extrêmement rare à notre époque, c'est qu'il est considéré comme conservateur.
Ah, oui,
il est en même temps très marial. Donc, ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelques évêques nommé par le pape, d'ailleurs, il faut le reconnaître, il a fait quelques nominations qui se sont révélées fracassantes, mais qui étaient un retour à plus de sérieux dans le corps épiscopal. Donc ça fait un de plus qui a un poste important.
Bon, ça fait toujours un évêque de catholique, c'est quand même bon à savoir. Merci mon cher Marc. Alors, je rappelle que toutes ces informations que vous nous livrez toutes les semaines sont contenues
dans la lettre Iota Unum, qui est une lettre confidentielle d'information religieuse, et dont l'adresse est boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX, et on envoie son adresse à cette adresse-là, à la boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, et on reçoit ensuite, pendant 3 semaines consécutives, le numéro de Iota Unum, ce sur quoi d'ailleurs on s'abonne, parce qu'on ne peut plus se passer de son contenu. Cette annonce est de caractère strictement publicitaire. Elle est, je le précise, d'ailleurs remboursée par le fait que Iota Unum cite le Libre Journal de la France Costoise, 139 boulevard de Magenta, 75-010 Paris, dans son numéro qui vient de sortir, ce dont je remercie Marc Dem, en vertu de l'application du vieux principe « passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné ». Donc vous avez le choix. Cette semaine, vous devez absolument vous abonner à un journal. Donc vous pouvez soit vous abonner à Iota Unum, soit vous abonner au Libre Journal de la France Courtoise.
Tous les deux d'excellents journaux.
Merci, mon cher Michel Blanza. Et la meilleure solution, d'ailleurs, c'est effectivement de s'abonner aux deux. Voilà. On écoute un tout petit peu de musique qui s'impose, et puis on parle ensuite avec le docteur Tremblay.
La grève des mères, répertoire Montéus. Jusqu'au lefeu la mitraille, jusqu'aux les fusils et canons, font dans le monde des entrailles, couvrant de mort les plaines et les vallons. Que les hommes sont des sauvages, garnis de Dieu, fraternité, femme de vous, femme de frère, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau. Ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la on assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
Alors, pendant que cette musique, cette chanson de Montéus nous était proposée, puisque les auditeurs ont demandé qui chantait ainsi, c'est Monsieur Montéus, le chansonnier humanitaire. Il s'agit d'un disque qui est un petit joyau, enregistrement originaux 1905-1936, c'est un disque compact édité par EPM, je crois. Voilà, des appels sont arrivés, notamment... Un auditeur qui dit une chose qui est tout à fait juste, on le rappelle pas parce que ça paraît s'imposer d'évidence, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler de temps en temps, il dit « je suis israélite et je ne nie pas que les juifs aient eu une culpabilité dans le procès de Jésus, mais ceux d'aujourd'hui ne sont pas responsables des actes de ceux d'il y a presque 2000 ans ». Ça me paraît tout à fait clair. Mais ça appartient, si vous voulez, à cette tradition qui dit « les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées ». Qui est une tradition juive, si je ne me trompe pas. Et puis il y a un auditeur qui dit: qu'en est-il de l'antisémitisme de Dieu envers le peuple juif? C'est une grave question. Je pense qu'il faudrait la poser dans des conditions où on aurait un peu plus de temps pour étudier. Alors, qu'est-ce que j'étais pour dire? Oui, c'est tout. Puis une question qui est posée à propos du réalisateur de La Reine Margot. Je le dis pour l'auditeur qui l'a posé. Je ne suis pas informé de ça, donc je ne peux pas me prononcer. Mon cher Michel Blanza, avant de donner la parole au docteur Tremblay, j'aimerais que... Non, vous préférez après, peut-être?
Comme vous voulez.
Non, eh bien, écoutez, voyons tout de suite ce que vous avez...
Je m'appelle BHL.
Il faut parler beaucoup plus près du métro.
BHL, j'ai retrouvé des vieilles choses.
Du micro, je veux dire. Je ne sais pas si on vous entend, j'en suis pas sûr.
Non,
j'ai l'impression que vous n'avez pas de micro. Voilà, peut-être.
Alors,
maintenant...
Là, je dis quelque chose. Bonjour.
Oui. Bon, essayez.
BHL, la honte de l'Occident.
Je vais vous lire son article. Voilà, ça y est, là, vous avez eu le micro pendant une seconde, on va...
Ma rage froide, voilà, et amère, mon impuissance, notre impuissance commune, et puis la honte, surtout la honte irrépressible, la honte qui me saisit tout d'un coup, à me retrouver ainsi dans un beau matin de décembre dans la peau d'un collabo.
Ça, c'est du BHL. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre garçon?
Eh bien, vous pouvez dire de quoi il parle?
Non, pas du tout, non. C'est pour ça que je vous pose la question.
Eh bien, c'était le matin du 15 décembre 81.
Oui.
Et ça, son discours n'est pas varié d'un iota, comme on dit par ailleurs. Je vous relis tout. La honte de l'Occident, ma rage froide et amère, mon impuissance, notre impuissance commune, et puis la honte, surtout l'irrépressible honte, qui me saisit tout d'un coup à me retrouver ainsi un beau matin de décembre dans la peau d'un collabo, le matin 15 décembre 81. Tout ça pour vous dire que ces phrases-là de culpabilisation de l'Occident, qu'il applique systématiquement à tout bout de champ. Si son café est froid, c'est la honte de l'Occident.
Ah oui, c'est ça. Si... Mais on ne sait pas pourquoi il était collabo de quoi à l'époque. Il le précise
si,
pas.
Si, je peux vous le dire. C'est à propos de la phrase de Chesson qui disait: naturellement, nous n'allons rien faire quand il s'agissait de faire des choses à propos de la Pologne.
Ah, c'est ça, rappelez. Oui, d'accord.
Mais cette phrase-là, il la reprend exactement de la même manière pour 30, 40 cas différents depuis. Donc, il faut simplement se dire qu'il est en période de réadaptation, il est en milieu ouvert. BHL, mm-hmm. Ce n'est pas grave. En fin de compte, on a tort de le prendre au sérieux.
Mais qui le prend au sérieux? C'est ça la question.
Eh bien, les journaux.
Ah oui, mais les journaux ne sont pas des gens sérieux. C'est bien, les journalistes ne sont pas des gens sérieux.
Et bon, c'est assez rigolo quand même de voir que le même système peut être vendu sur 15 ans à un intervalle sans que personne ne bouge. Ce sont les mêmes mots.
Mais je crois que le secret, je vous l'ai déjà dit, moi je suis persuadé que vous êtes le seul lecteur de BHL. Je suis certain. Les gens achètent ce livre parce que c'est obligé.
Jacques Juillard, vous pensez aussi?
De
Jacques Juillard, je suis le seul lecteur.
Ah non, non, il y a des fois où il dit des choses intéressantes.
Vous croyez?
Oui, pas rigolote en tout cas. Qu'est-ce qu'il a dit là?
Non, il s'est mis avec Bernard Henry pour parler d'un ordre néo-munichois. Nous sommes dans l'ordre néo-munichois.
Ne sortez
pas de cette référence-là.
Je vous ai dit, il y a trois ordres historiques. Proto-nazisme, le nazisme et le néo-nazisme. Et alors maintenant, il y a le...
Il y a trois articles en stock?
Oui.
C'est
ça. Ouais.
C'est bien triste. Sophie Favier, je vous avais parlé de ça.
Je ne sais pas qui c'est du tout.
Moi non plus, mais on nous dit qu'elle est enceinte dans le Figaro TV.
Oui.
Et on met ça sous le titre « Un secret de polichinelle ». Je trouve que c'est politiquement incorrect.
Alors, arrangez donc le journal dans votre tiroir.
Bon.
Est-ce que vous avez autre chose à
dire? J'ai des masses de choses, mais je ne vais pas non plus traîner. Hein.
Non, c'est intéressant.
Mais
en même temps, je plaisante à peine. Mais oui. C'est quand même un signe de penser qu'une revue comme le Figaro... destiné à une clientèle quand même, disons de la petite moyenne bourgeoisie, où on n'a pas l'habitude de tenir n'importe quel langage, fait un titre comme ça, à propos d'une dame qui attend un bébé, un secret de polichinelle. Mmh. Je trouve que c'est d'un goût vraiment douteux. On croirait entendre l'émission du mercredi soir sur Radio Courtoisie.
Pouvez-vous me dire pourquoi cette phrase me fait rire dans l'éditorial de FO Hebdo? Force ouvrière sera particulièrement vigilante sur la question des salaires et notre refus d'envisager un partage du travail et des revenus.
Oui.
Ça vous fait
rire? Oui, non, mais ça finit. Je vous assure que les propos des syndicalistes ont fini de me faire rire depuis un certain temps.
Ah oui, ça fait longtemps, je crois.
la joie que vous allez nous proposer siégel. Du siégel.
Oui, un vieux siégel, parce qu'il sait pas... Alors, Longuet devra-t-il bientôt quitter cette équipe qui partait gagnante pour la présidentielle dans le déshonneur d'une carrière qui se brise pour quelques pierres bâties au paradis des frimeurs?
Oui,
c'est une belle métaphore.
Belle
une carrière
métaphore.
Qui se prise à cause de...
C'est pierre. Ce qu'on appelle une métaphore filée.
Filée. Eh oui.
Voilà, une carrière de pierre.
Une carrière de pierre.
Merci, mon cher.
Un tract.
Oui, un tract. Alors, donnez-nous un tract avant de te donner
dans
la parole.
Dans le 19e.
Au docteur Tremblay, oui.
Dans le 19e, un candidat déjà au municipal. Il prend un temps d'avance. Alors, il s'appelle Madec. Il est candidat du Parti socialiste. Il veut être député du 19e.
Ben, ça, je le comprends.
Pourquoi? Pourquoi? Pour le fric, croyez-vous?
Non, pas Madec, c'est exclu
totalement,
c'est
tout
il
n'est
pas
fait
intéressé exclu. Du tout.
Il a un rêve d'enfant à satisfaire, c'est écrit dans son tract, il veut faire ça pour actionner tous les leviers en même temps.
Ah oui.
Il veut aussi la grande échelle des pompiers.
Oui.
Il veut faire pimpon. Il veut implanter aussi une antenne mobile de police dans les quartiers les plus sensibles. Une antenne mobile.
Implantée, solidement implantée. Ce qui risque de nuire à sa mobilité, mais enfin ça...
Il veut établir un système d'alerte, véritable tableau de bord préventif. Un tableau de bord préventif.
Ah, c'est très joli.
Il faut saluer l'innovation quand même.
J'espère qu'il... Et dont il manipulera tous les leviers, d'ailleurs.
Dont il manipulera tous les leviers. Et bon, alors il veut aussi combattre, par exemple, absentéisme scolaire, impayé de loyer, cas de violence familiale, apparition de dealers extérieurs.
Ah oui, les dealers intérieurs, on s'en fout, mais...
Ceux du 19e, intramuros,
oui,
c'est, ils peuvent rester.
Mais
c'est ceux de l'extérieur. Ça, c'est de l'exclusion.
Eh oui.
Qui sont autant de clignotants orange.
Ah
oui, les dealers extérieurs sont autant de clignotants orange, et c'est très grave, les clignotants orange.
C'est marrant, j'avais pas remarqué cette couleur-là, moi.
Et, regardez bien. Hein. Ouais. Développer un urbanisme de qualité respectant les équilibres sociaux et humains. Pour le cas où ce serait pas exactement la même chose.
Oui.
Implanter tes antennes jeunes
dans
chaque quartier.
C'est le quartier de la Villette, quand même. Hein.
Oui. Alors, c'est écrit dans un langage à destination des habitants
c'est
de la Villette.
C'est écrit en langage socialiste.
Particulier.
C'est du langage socialiste.
C'est la neuve langue, mais ça commence à
C'est la neuve langue madéquienne. Merci, mon cher Michel. N'oubliez pas de faire attention aux clignotants orange quand vous rentrez chez
les,
vous.
C'est les plus graves, oui.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de clignotants orange dans votre quartier, je crois.
Quelques-uns.
Voilà. Docteur Tremblay, bonsoir. Donc, troisième volet de notre triptyque sur la démographie, l'avortement et la politique familiale. Alors, ce que je voudrais que vous nous exposiez ce soir, c'est l'aspect économique de ce dossier.
Oui.
Parce que, au fond, ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que vous nous avez expliqué que il n'y avait pratiquement plus rien à faire, plus aucun espoir sérieux de rattraper la situation du déficit démographique. À temps pour sauver... Alors, expliquez-nous comment.
Bien, on peut, si on intervient rapidement... N'est-ce pas? Parce que il faut bien dire que la situation est telle que, en l'absence d'action rapide, on ne peut plus enrayer le vieillissement de la population et surtout l'explosion du vieillissement qui apparaît de 2005 à 2033. C'est le fameux passage des générations 46-73 dans l'âge de la retraite. 46 plus 60, ça fait 2006. 73 plus 60, ça fait 2033. C'est vraiment très précis.
Donc entre 2006 et 2033, il y aura un déficit
de
population,
une augmentation considérable de la population âgée.
C'est ça.
Donc vous allez avoir une charge très importante.
En gros, il y aura un travailleur pour un retraité.
Il va y avoir. Non, c'est pas. Ça peut arriver là si on n'intervient pas. C'est-à-dire que actuellement nous sommes à 1 pour 2, il y a un retraité pour deux travailleurs normaux,
enfin,
cotisants, et si vous n'intervenez pas, vous allez vers 1 sur 1. Donc à ce moment-là, augmentation des prélèvements obligatoires, des déficits de la compétition internationale, débâcle économique, enfin surcharge financière, retraite et d'autre part charges médico-pharmaceutiques vieillesse. Donc le grand problème, c'est de maintenir ce taux qui n'est pas excellent. Il était à 1 sur 4,5 en 1960, il s'est aggravé considérablement, mais il faut s'accrocher coûte que coûte à 1 sur 2. Il ne faut pas aller à 1 sur 1.
Alors, comment est-ce faisable?
Et là, c'est faisable dans la mesure où vous augmentez très, très sensiblement la population active cotisante. je dis bien cotisante. Hein. Actuellement, nous avons 22 millions d'actifs. Nous aurons 21 millions de personnes âgées en 2033. C'est le chiffre de l'INSEE officiel. Et si vous voulez maintenir le rapport à 1 sur 2, il faut qu'il y ait 42 millions d'actifs cotisants, n'est-ce pas, à cette période-là. Or, vous avez 22 millions d'actifs, il faut 42 millions d'actifs cotisants pour réparer la situation.
20 millions d'actifs supplémentaires.
Ce qui est quelque chose d'énorme, ce qui prouve la gravité exceptionnelle de la dégradation démographique française.
Mais alors, je vous repose la question. Alors, est-ce faisable?
Alors, c'est faisable dans la mesure où de 1995 à 2013, pourquoi ces dates, je vais vous les expliquer. De 95 à 2013, vous avez un dressement de la natalité substantiel. Là, vous augmentez la population adulte productrice, n'est-ce pas? Pourquoi 2013? Parce que les gens nés après 2013 donneront les adultes après 2033. Donc c'est vraiment cette période-là qui permet de réparer la situation.
On a 18 ans pour sauver
la situation. Après, c'est plus récupérable.
Okay. Alors comment?
Eh bien, en redressant la natalité française et la redresser sensiblement, nous avons fait toute une série de calculs. Si nous avions seulement... c'est très très facile à compter. Actuellement, vous avez 15 millions de l'effectif de les générations 74-94, c'est 15 millions. Avec le coefficient de 1,4 enfants par femme chez les autochtones, n'est-ce pas, français, autochtones, vous avez, ces générations vont donner 10 millions de descendants. Vous avez donc comme population adulte qui va supporter la masse âgée, vous avez donc 15 et 10, 25. Il en faut 42, il manque 17 millions d'adultes pour arriver à réparer la situation, à permettre simplement que les charges sociales n'augmentent pas. N'est-ce pas? Et reste au niveau actuel, qui n'est pas brillant, mais enfin, si on laisse partir les choses, il n'y a plus de solution. N'est-ce pas? Ça devient impossible au point de vue commercial, industriel, compétition internationale. Alors, avec 1 million de naissances par an, 1 million de naissances par an d'ici 2013, il nous manquera 7 millions.
Mais 1 million de naissances par an, ça suppose déjà une augmentation de 50% de naissances.
Non, pas 50. Vous avez 700 000 actuellement, ça suppose une augmentation de 300 000. Alors
de 7 à 10, ça fait 350.
C'est ça. Donc, ça suppose une augmentation de 300 000 par an. Si vous avez ce chiffre-là, pendant 20 ans, il vous restera un déficit de 7 millions d'adultes. Si vous l'avez pendant 19 ans, il vous restera un déficit de 8 millions d'adultes. Et dans ces conditions, vous ne pouvez vous en tirer sur le plan retraite et équilibre financier nationaux, les grands équilibres nationaux, parce que ça, c'est un des grands équilibres nationaux, vous ne pouvez vous en tirer que si vous avez... Alors un retard de l'âge de la retraite qui est absolument effarant, n'est-ce pas, qui serait de 10 à 12 ans, si vous voulez, arriver à compenser ce phénomène. Alors je voudrais faire une remarque quand même importante, parce que 1 million, ça paraît un chiffre important. En réalité, la France de 1947-1948 avait 850 000 naissances, ou 860 000 naissances, pour un pays de 40,5 millions d'habitants. 41 millions en 67, en 47, je veux dire. Donc, si vous transposez les taux de natalité de l'époque pour un pays de 58 millions d'habitants, 1 860 000 de l'époque, ça faisait 1 200 000 d'aujourd'hui. Donc, demander comme objectif 1 million de naissances aujourd'hui, c'est un chiffre très inférieur au chiffre qu'a connu la France de 46 à 73. Voilà. Donc c'est un chiffre modéré, ça paraît beaucoup, mais c'est un chiffre modéré. Et en réalité, la situation est tellement grave que si vous vouliez corriger complètement pour atteindre, il faudrait passer à 1,4 million, c'est-à-dire doubler, ce qui est impensable.
Des auditeurs nous téléphonent en disant oui, ben il faut augmenter l'immigration, c'est la seule solution.
Oui, alors la solution, moi je veux bien, je ne veux pas bien.
Ben voilà, ça,
voilà
c'est
la bien question.
Problème.
Mais je vais un peu expliquer le problème, parce que ou bien nous avons actuellement la population française autochtone a 1,4. Bon, elle a 1,63 en comptant qui ? En comptant tous les naturalisés musulmans, n'est-ce pas ? Ça vous donne 1,55 à peu près. Et en comptant les autres, les non français, ça vous fait 1,63. Bon. Alors, si vous ne corrigez pas ça, comme que cette population-là a, elle, un taux qui est plus du double du nôtre, vous avez environ 4 millions de personnes non autochtones, disons, eh bien, avec un doublement ou un triplement, vous arrivez directement à ce qu'on appelle une 15 à 20 millions d'islamistes en France, n'est-ce pas ? Alors, je pose la question suivante, est-ce que les Malthusiens républicains, n'est-ce pas, laïcs, sont prêts, qui ne veulent pas du rétablissement de la démographie française, est-ce qu'ils sont prêts à accepter une république islamique en France dans une vingtaine d'années ?
Je crois que la seule question. La réponse est dans les chiffres que vous venez de donner.
C'est la seule question. Ou bien on rétablit la situation, ce qui permet le sauvetage de cette nation, parce que après ce délai de 18 ans, ça n'est plus récupérable. Pour quelle raison ça n'est plus récupérable ? Parce que les charges qui vont peser sur la petite population adulte sont tellement élevées qu'ils ne pourront pas avoir l'énergie et les moyens économiques d'avoir une famille à ce moment-là. Donc après, c'est l'évanouissement qu'on peut considérer comme définitif. C'est une chose qui s'est produite dans l'histoire, dans certains pays.
Ça s'appelle un génocide différé.
Un génocide différé, c'est tout à fait ça. Et c'est une affaire absolument programmée et tout à fait précise. Et nous luttons avec une grande énergie pour arracher ce pays à ce génocide, n'est-ce pas ? Alors naturellement, il y a une politique très accessible, très acceptable, et qui, en même temps, est une promotion de la femme, mais vraiment très importante, qui permet, n'est-ce pas, de rétablir sa propre situation, sa liberté de choix réelle, parce qu'actuellement, il n'y a pas de liberté de choix réelle. On vous dit, madame, voilà, dans un cas, vous avez de l'argent, et vous n'avez pas de dépenses, dans l'autre, vous n'avez pas d'argent, les dépenses. Alors choisissez. Voilà le choix.
Alors vos solutions en deux mots,
parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, vous comprenez, en deux mots, il y a quand même d'abord la revalorisation de la politique classique, n'est-ce pas, qui permet beaucoup, qui a déjà été faite. Par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle la parité du mariage et du concubinage. Le mariage est sanctionné sévèrement, et bien déjà ça fait déjà un progrès assez important, puisqu'il y aurait, on sait qu'il y a tout de même un enfant.
Sur le plan fiscal,
vous
voulez dire,
oui,
par exemple.
Oui, sur le plan fiscal, c'est extraordinaire. Là, je pourrais le développer. Alors, il y a déjà la revalorisation de la politique classique, et il y a la politique nouvelle qui comporte toute une série de choses, comme l'indemnité de garde élevée, qui donne un SMIG à la femme qui garde ses enfants, et ça coûte 5 fois moins cher que le prix d'une crèche, en lui donnant 5 000 francs par mois, n'est-ce pas ? 5 fois moins cher, une économie pour la nation considérable. Vous avez le salaire parental, qui obtient les mêmes résultats, n'est-ce pas ? Vous avez la retraite familiale non liée au salaire, vous avez la cotisation retraite équivalence enfant, qui résout complètement le problème du déficit des retraites au point de vue sécurité sociale. Et la grande question dans cette affaire, c'est que une petite politique familiale coûte cher parce que elle ne donne pas de résultats. N'est-ce pas ? Si vous faites des mesures sans importance, ça va coûter quand même au budget, tandis que si vous faites des mesures compétitive avec le SMIG, n'est-ce pas ? Là, vous jouez directement sur le problème du chômage d'une façon massive, et là, vous gagnez de l'argent avec la politique familiale. Et vous gagnez jusqu'à plusieurs centaines de milliards de francs par an si vous faites une grande politique familiale. Le grand point de la discussion, c'est il faut qu'elle soit compétitive avec le SMIG et avec le coût du chômage.
Voilà. Merci, docteur Tremblay. Alors, c'est ça. Pour en savoir plus sur cette doctrine qui est la vôtre et qui me paraît quand même intéressante, c'est que on peut transformer une politique familiale non pas qui passe toujours pour une politique de qui dévore les finances, on peut la transformer en une politique génératrice de richesses. Pour en savoir plus, il faut lire Union pour une politique nouvelle, la lettre de l'UPN
59.
Numéro 59, politique familiale et démographie française. Vous pouvez demander cette lettre en écrivant à 139 boulevard de Magenta, c'est une adresse que vous connaissez, mais là c'est l'UPN,
c'est ça.
139 boulevard de Magenta, 75010 Paris. Et quel est le prix ?
Alors c'est franco, c'est 37 francs.
37 francs franco.
Voilà.
Merci docteur.
Voilà.
Et à bientôt, j'espère, pour que vous nous teniez au courant de la suite de vos travaux sur ces questions passionnantes.
À expliquer davantage, parce que là, on fait un tour d'horizon.
Oui, on est obligé. Mais enfin, la lettre est beaucoup plus précise et approfondit ces questions et les traite, je veux dire, beaucoup plus en profondeur. Merci.
Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je vais d'abord répondre à la question d'une auditrice. C'est une question qui date du mois dernier. Après recherche, il semble, si je ne me trompe, que son oxalis soit l'oxalis des bois. Oxalis, c'était celle-là, ou petite oseille, sous toute réserve. C'est une question qu'elle nous avait posée tardivement.
Vous voyez, on prétend qu'il n'y a pas d'information dans cette émission du mercredi soir. Voilà.
Alors, j'ai un très beau livre à présenter pour nous faire oublier le mauvais temps. Il s'appelle justement « Les belles saisons » de Joël Boucher. Il est sorti aux éditions de La Martinière avec de très ravissantes aquarelles, surtout toutes les petits frémissements qui annoncent les saisons. Il nous fera oublier qu'en ce moment, le printemps se cache sous un nouvel hiver. Il contient des poèmes, des recettes, des textes littéraires et des ditons. Alors, très judicieusement, l'auteur nous prévient que le calendrier est établi sur le calendrier grégorien, car en effet, les ditons, maintenant, mentent. Quand on nous parle, par exemple, de la Saint-Théodore, qui est au 20 avril et qu'on dit à Saint-Théodore fleurit chaque bouton d'or et qu'on sait que maintenant la Saint-Théodore, n'est-ce pas, est devenue la Sainte-Odette, on ne sait plus quoi faire rimer avec. Et le pauvre Henri Pourrat, qui nous raconte tant de belles choses à propos de la Saint-Benoît, qui a été transféré en juillet, sauf dans les monastères bénédictins, s'arracherait certainement les cheveux. Alors je vais aussi commencer par quelques annonces, puisque bien que Victoria ne soit pas là, on manque toujours de temps en fin d'émission. Nous avons un bouquet de manifestations actuellement, on en a choisi trois. Alors d'abord, au potager du roi à Versailles, bien entendu, fêtez le printemps. Une exposition qui aura lieu les deux premiers week-ends d'avril, 1er et 2 avril, 8 et 9 avril, de 10h à 17h. Alors visite du potager avec 5000 pommiers et poiriers en fleurs. Et une exposition de bouquets, bien sûr, réalisée par la municipalité de Versailles, la section d'art floral du centre d'enseignement Técoma de Jouy-en-Josas, dont nous avons reçu les élèves il y a deux mois, et l'école d'art floral de Versailles, qui est ici ce soir. L'entrée est 4 rue Hardy à Versailles, et le tarif est de 30 francs. Chez notre ami Muriel de Curel, la grande fête annuelle des plantes vivaces, qui revêt une solennité particulière puisque c'est la 10e édition, les 7, 8 et 9 avril, de 10h à 18h. Le programme détaillé, qui qui est assez dense cette année à cause de l'occasion particulière, a été laissé, je pense que les auditeurs pourront se renseigner s'ils le souhaitent. Nous leur signalons simplement que Saint-Jean-de-Bourgard est à une trentaine de kilomètres au sud de Paris et qu'on s'y rend à partir des Ulysses, le parcours est fléché. Alors c'est de 10h à 18h les 7, 8 et 9 avril et les entrées sont de 45 et 35 francs. Et maintenant, à Versailles, n'est-ce pas, tout honneur, Art Floral à Versailles, exposition les 7, 8 et 9 avril, fleurs chez les musiciens italiens, exceptionnellement ouvert au public après restauration. Et nous allons donner des détails pratiques tout à l'heure, mais nous allons d'abord parler de cette manifestation. Et nous sommes heureux d'accueillir, pour nous parler de cette maison, Monsieur Tigréa, qui est l'archiviste national, alors j'espère ne pas me tromper, des Compagnons du Tour de France et des Devoirs Unis, c'est bien cela, qui a en compagnonnage le nom de Breton la Tradition, ce qui indique quelques origines, n'est-ce pas, qui est ébéniste et qui va nous parler un petit peu rapidement du compagnonnage, ce qu'il est aujourd'hui peut-être.
Oui, je pense que je vais d'abord vous parler un peu de ma société, puisqu'il existe actuellement trois grandes sociétés du compagnonnage, qui sont les seules. Je vais vous les énumérer rapidement, je pense que les auditeurs le savent, mais il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire l'Union compagnonique qui est la plus ancienne, juridiquement constituée, les Compagnons du Devoir, l'association ouvrière, et les Compagnons de la Fédération compagnonique. Alors, l'Union compagnonique, donc je fais partie, est une société qui a été créée en 1889. Cette société a été créée à un moment où il y a eu un fort mouvement ouvrier au 19e siècle, à un moment où le compagnonnage était en essor. Il y a eu un essor énorme, une apogée, sous la Restauration, entre 1815 et 1830. Et ensuite, il y a eu une décadence qui a été assez visible. Cette décadence a eu lieu de 1830 à 1839 avec des risques, des attaques de compagnons pour avoir des places. Tous ces gens luttaient pour avoir du travail dans les villes. Donc différentes sociétés se sont constituées et ils voulaient tous avoir des villes pour avoir des patrons, pour avoir un salaire et avoir du travail. Et à cette époque, à partir de 48, il y a un compagnon qui s'appelle Agricole Perdiguier, qui était député ouvrier à l'époque, plus tard du moins, mais qui a fini député ouvrier, qui faisait son tour de France, qui s'est rendu compte qu'il était tout à fait anormal, que ces gens se déchirent, etc. Et il a voulu, parce qu'il y avait des affrontements idéologiques, lutte pour la vie et la condition humaine, et il a voulu, il recevait dans cette atmosphère, il a reçu des injures, des devoirs, c'est-à-dire des sociétés qui n'étaient pas les siennes. Il y avait à cette époque-là vraiment, les routes étaient très mal fréquentées et pour les ouvriers ça se ressentait. Il a voulu donc devenir le pacificateur et le rassembleur des différentes sociétés. Et il a émis cette idée, il avait été soutenu par cela en Georges Sand, Victor Hugo, de réunir tous les compagnons des différentes sociétés en une seule association qui aurait été belle, qui aurait été formidable. Malheureusement, il n'en a pas vu le jour. Il a fait une première association qui s'appelait les Devoirs Réunis. Il n'en a pas vu le jour. Mais un autre compagnon, qui était Bourrelier Arnacheur, Lucien Blanc, qui est le premier fondateur de notre société, a continué, a pris le flambeau et a fait naître l'Union compagnonique après bien des péripéties. Donc depuis 89, nous n'avions pas de maison. Nous avions des sièges en France.
Nous arrivons même à la maison des musiciens italiens.
Voilà, nous avions des sièges même à l'étranger. Nous avons eu des sièges en Amérique, à Buenos Aires. Nous avons à Tananarive. Nous avons eu des sièges très très loin, très nombreux, en Algérie. Et nous n'avions pas de maison principale. Nous avons donc fait des interventions près des municipalités, près des ministères différents. Et jamais nous n'avions eu une maison. Et subitement, en 1986, grâce à la ville de Versailles, nous avons pu avoir un siège national. Alors, nous avons eu ce siège national dans lequel il va y avoir l'exposition. Grâce à la ténacité et à l'amour du beau travail bien fait, grâce à Armel Rougemont-Bainville, qui a monté une société de sauvegarde du bâtiment des musiciens italiens. Pourquoi sauvegarde? Parce que il y a toute une histoire dans ce pavillon. Ce pavillon qui avait été construit dans un petit village où il y avait une forte colonie italienne, et avait été construit sur une parcelle de terrain que le chanteur de la musique ordinaire de Sa Majesté Louis XIV, Baniera, avait acheté. Il avait acheté un terrain, mais il n'avait pas construit sur ce terrain. Et ensuite, un de ses amis, qui s'appelle Chabonceau de la Barre, qui était français, qui jouait de la théorbe, lui a construit un tout petit pavillon en arrondi, très joli, en cul-de-four. Il en a fait cadeau à Baniera, à condition que Baniera veuille bien l'héberger. Et ensuite, une troisième fois, donc ce sont des dates importantes, vous avez donc une date qui est au 17e, qui est en 1686, vous avez une deuxième date de 1691, où Chabanceau de Lavare en a fait cadeau, donc à Bagnera, et ensuite il y a trois autres Italiens, Carli, Nardi et Santoni, des musiciens, qui eux ont fait rajouter les deux ailes en 1708. À condition d'être hébergé, de pouvoir avoir le pavillon. Et à ce moment-là, Bagnera leur en a fait cadeau. Vous avez donc là un petit pavillon qui est merveilleux, qui est une petite folie, à laquelle on sent un fort attachement ensuite au 18e, où il y a eu des transformations, et on sent la présence au 18e d'Eustache de Gournay, en 1748, qui l'a habité, le comte et la comtesse d'Argenson, en 1759, et surtout l'aumônier, le grand botaniste l'aumônier, qui a planté des arbres. Il y a d'accord encore des essences qui existent de ces arbres, et qui a habité très longtemps ce château, ce pavillon, et qui l'a transformé. Alors ensuite, il y a eu des propriétaires, je vous dis ça assez rapidement, il y a eu des propriétaires différents depuis le 19e, des propriétaires qui l'ont loué ou qui l'ont acheté, pour arriver à un moment donné où malheureusement un propriétaire l'a laissé complètement dépérir, vandalisé, etc.
Alors, là, nous avons une petite anecdote, je ne sais pas si elle est réelle, mais une de nos amies de Versailles prétend connaître ce propriétaire et nous affirme qu'il a distribué des sarbacanes à tous ses petits-enfants avec mission de détériorer le plus possible.
C'est vraiment étonnant,
parce qu'il avait envie de réaliser une opération immobilière en vendant cela à une société.
Il est certain qu'il l'a fait squatter. Et nous avons donc eu, une force de trois grandes personnes. Nous avons eu Maître Damien, le maire de Versailles, qui est d'un charisme extraordinaire, qui lui a fortement insisté pour qu'on puisse avoir ce pavillon. Et en cela appuyé par Madame Rougeois-Baville. Et la municipalité de Versailles a pu à ce moment-là le faire inscrire, ce qui était important, au monument historique, pour qu'il soit protégé. Il fallait qu'il soit protégé, qu'on puisse pas faire une action immobilière dessus. Et ensuite, une fois qu'il a été inscrit en 1977, le faire acheter en 1978. Et il restait à rénover ce pavillon qui était totalement dans un état lamentable, inhabitable. Il y a donc eu plusieurs projets, et un des projets qui a retenu l'attention, c'est de mettre en collaboration la ville de Versailles et les compagnons donnant la main d'œuvre et la ville de Versailles donnant les fournitures. Alors, ça s'est passé en deux parties. La première partie, c'est la Fédération Compagnonique, qu'on devait remercier, qui a travaillé avec la formation continue, qui a fait une partie du gros œuvre. Et puis nous, en 1986, nous avons donc eu un contrat avec la ville de Versailles, charge à nous de la restaurer, avec Monsieur Rochette, qui était l'architecte des monuments historiques. Nous avions un contrat pour faire notre siège national. Et pour une fois, nous avons un siège national extraordinaire.
C'est une très belle histoire, ça.
Et dans ce siège, nous avons donc, si vous voulez, maintenant, un hébergement pour les jeunes, des salles de cours, une salle polyvalente, des salles d'exposition et un logement pour le gardien. Donc, nous avons fait donc tout un ensemble du rez-de-chaussée. Dans une partie, il y a un musée de la tradition, de l'union compagnonique et de la mémoire, ce qui est important pour la classe, l'histoire ouvrière. Et l'autre partie, nous avons des expositions polyvalentes et itinérantes, uniquement dans l'art et dans la formation. Et c'est pour ça que, bon, je pense qu'on va accueillir
l'exposition des Florins. Et il faut bien noter que ces 8 ans de travail ont été entièrement bénévoles.
Tout à fait.
C'est magnifique.
Presque aussi beau que Radio Courtoisie.
Oui.
Et alors, nous allons donc inaugurer, nous, Société d'horticulture des Yvelines, par une exposition d'art floral, nous allons inaugurer l'ouverture de cette maison au public, donc ce fameux week-end des 7 et 8 et 9 avril. Et j'ai là Nicole Duquesne, que nos auditeurs connaissent déjà, qui préside aux destinées de l'école d'art floral de la Société d'horticulture des Yvelines et qui va nous dire dans quel esprit elle nous fait travailler pour cette exposition, car il ne faut pas croire qu'on pique nos petites fleurs comme ça, n'est-ce pas, comme dans un rêve. On travaille très très durement. Alors Nicole, qu'attendez-vous de nous?
C'est un grand privilège pour nous d'entrer dans ce pavillon des musiciens italiens, d'une part parce que je crois que c'est la première exposition qui a lieu dans ce pavillon, et d'autre part parce que nous avons pour tradition à Versailles de rechercher les lieux privilégiés. On a déjà exposé chez Madame Elisabeth, que vous devez connaître probablement, oui. À l'hôtel de Madame du Barry, qui est l'actuelle chambre de commerce de Versailles. Il y a 2 ans, nous étions dans la grande galerie de la bibliothèque qui est la grande galerie d'apparat du 18e. Et cette année, donc, nous venons chez les musiciens italiens.
Et il y a une continuité, puisque Madame Elisabeth accueillait Le Monnier chez elle.
Absolument.
Pour soigner ses pauvres. Et il venait chez elle, dans sa maison de Montreuil, qui était toute proche, pour soigner ses pauvres. Et donc, nous retrouvons Madame Elisabeth à la maison des musiciens italiens.
Oui, il y a une unité dans tout cela, c'est vrai. Donc, dans quel esprit nous travaillons ? Que nous travaillons fort, ça c'est une réalité. Dans quel esprit nous travaillons ? Je crois que quand nous arrivons dans un lieu aussi raffiné que celui-ci, il faut d'abord s'imprégner de l'esprit de ce pavillon. Alors c'est vrai que les visiteurs pourront se rendre compte du charme que cette petite bonbonnière du 18e, en fait, c'est vraiment un lieu tout à fait privilégié, mais qui nous laisse quand même la liberté de nous exprimer floralement plus librement que nous n'avions pu le faire à la bibliothèque, cette grande galerie qui était là une galerie d'apparat. Il n'était pas question dans ce lieu de faire des bouquets libres, alors que là, ce pavillon a gardé une âme très empreinte de l'esprit du 18e, mais étant donné qu'il n'est pas meublé, nous nous sentons un petit peu plus libres.
Nous avons beaucoup plus de place déjà.
Et puis nous avons fait une extension en montant une tente à l'extérieur dans les jardins, qu'il y a de très très beaux jardins en plus, qui sont faits dans l'esprit du 18e aussi, je pense. Et donc là, sous cette tente, alors là, on s'exprimera sans aucune contrainte, de manière plus moderne. Alors qu'à l'intérieur, nous essayons quand même de garder un style, peut-être pas un style d'époque, puisqu'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de décoration très présente qui nous l'impose, mais quand même un style qui s'harmonise avec l'esprit des lieux. Ça me paraît essentiel.
En accord avec les couleurs de chaque salon.
Ah oui, bien entendu.
J'ai une question un peu saugrenue à poser. L'ancien emplacement des serres de Le Monnier est occupé par une école maternelle maintenant, qui est entièrement vitrée. Est-ce que l'architecte l'a fait exprès ou est-ce que c'est un hasard?
Cette école existait avant que nous rentrions dans l'action
de la sauvegarde,
si vous voulez, ce pavillon. Nous avons pris, la charrue bien plus tard. Alors, je ne sais pas du tout si...
Parce que ça m'a amusé, cette coïncidence.
Oui, non, pas du tout, je ne peux pas vous répondre.
Mais ça doit être extraordinaire, ce pavillon qui a été refait donc pendant des années par des compagnons du Tour de France qui ont travaillé bénévolement. Donc ils ont dû mettre tout leur cœur, toute leur âme et toute leur habileté, toute leur adresse, toute leur connaissance. Ça doit être une pure merveille, j'imagine.
Ah, c'est une pure merveille. Et pour nous, c'est une chance d'entrer dans ces lieux. Et le fait qu'il ait été restauré, justement, parce que c'est un peu notre état d'esprit. Nous sommes une équipe d'une vingtaine d'amis qui travaillons, bien entendu, bénévolement pour l'amour des fleurs. Et pour,
ça, c'est interdit, je crois, d'ailleurs, par les traditions du compagnonnage, le travail bénévole.
Ah, pas du tout.
Sauf pour la maison.
Bien sûr.
Pour la Cayenne, on travaille gratuitement.
Bien sûr, tout à fait.
Mais pour un patron, jamais.
Jamais. Non.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est toute la différence.
Nous n'avons pas de patron. Voilà tout. Non, c'est aussi un travail d'équipe. Chacune est dans l'autre quand il le faut. Et je crois qu'il y a une osmose entre l'état d'esprit dans lequel vous travaillez à l'Union Compagnonique et l'état d'esprit dans lequel nous aussi nous œuvrons. Ce qui fait que c'est assez beau qu'on puisse.
C'est un bon logement, je crois.
Absolument.
Absolument. Nous sommes très fiers de vous accueillir, d'accord.
Voilà. Et puis nous avons choisi le thème de la musique, parce que évidemment, chez les musiciens italiens, ça s'imposait. Et puis d'autre part, je crois que depuis les temps anciens, où le dieu Pan qui poursuivait la nymphe Syrinx prit des roseaux et se tailla le premier instrument dans un roseau, je crois que depuis ce temps-là, le monde de la musique et le monde des fleurs, le monde végétal tout au moins, sont étroitement liés. Et on n'a pas eu, je dois dire, beaucoup de mal pour trouver une inspiration à ce niveau-là.
On peut même dire que d'une certaine manière, en taillant le roseau, il a été l'ancêtre des gens qui travaillent le bois.
De toute façon, que nous avons des luthiers.
Oui, en plus, oui,
nous avons des luthiers.
Avez-vous des fleuristes ?
Non. Nous avons tous les métiers qui transforment la matière, normalement. Des métiers qui ont disparu, où il ne reste que quelques personnes. Il y a des métiers qui ne sont plus des métiers d'action, si vous voulez. Mais nous avons des nouveaux métiers. Nous prenons des nouveaux métiers pour ne pas mourir. C'est un petit peu ce qui change des autres sociétés, l'Union Compagnonique, qui se veut toujours renouveler, toujours avoir un effectif avec des nouveaux métiers, accueillir des nouveaux métiers, vivre et non pas rester sur des métiers passéistes. Nous avons donc des cuisiniers, nous sommes la seule société à avoir des compagnons cuisiniers, des prothésistes dentaires maintenant aussi. Nous avons des gens de...
Mais c'est curieux, parce que vous parlez des cuisiniers, mais
J'ai l'impression que, aux origines du compagnonnage, il y avait des rôtisseurs. C'est même des choses qui a provoqué.
Je ne pense pas, parce que bon, les cuisiniers, les premiers que j'ai trouvé enregistrés, moi, sur les registres de mutualité, parce que nous sommes à la base de la mutualité. Hein. Donc, si vous voulez, l'union compagnie, qu'on peut contrôler nos effectifs par des inscriptions sur les registres de la mutualité du 19e. Nous avons les anciens devoirs qui sont venus avec leurs anciennes couleurs, leurs anciens, si vous voulez, leurs anciens rituels, etc., qui sont venus s'inscrire chez nous. Donc nous avons des dates précises. Et les premiers cuisiniers que nous trouvons, à l'Union compagnonnique, c'est en 1901.
Ah oui.
Donc c'est beaucoup plus récent. Mm-hmm. Par contre, il y avait des compagnons boulangers et des compagnons pâtissiers.
Oui, c'est ça.
Mais les cuisiniers, c'est beaucoup plus récent. Et c'est un devoir, c'est une corporation. Nous ne sommes pas en corporation. Nous travaillons, quand nous avons fait la restauration, les cuisiniers travaillaient aussi bien avec les ébénistes que les maçons pour rouler les brouettes. Hein. Nous sommes toutes corporations mélangées. Donc il y a une certaine philosophie qui est différente des autres devoirs, et nous avons donc tous ces métiers qui sont venus chez nous à un moment donné.
Alors, nous allons rappeler donc à nos auditeurs que c'est les 7, 8 et 9 avril, pavillon des musiciens italiens, 15 rue Champ-Lagarde à Versailles. Les 3 jours, l'exposition sera ouverte de 10h à 18h. L'entrée est de 30 francs, 25 francs selon les cas, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut apprendre à ses chers petits à aimer les fleurs. Alors je vais prendre une petite minute sur vos annonces pour parler un petit peu de ce qui se passe chez nos amis belges. Les Floralies ont lieu à Gand du 22 avril au 1er mai. Il y aura évidemment une exposition florale et une démonstration qui sera effectuée par Marie-Alice Sinati, qui est venue ici à cette émission, et le révérend Macmillan, qui est un Irlandais.
Incroyable.
Un pasteur irlandais qui pratique l'art floral. C'est très original.
Polonais ou quelque chose comme ça.
Et la démonstration aura lieu le vendredi 21. Si des auditeurs se trouvent en Flandre à cette époque, eh bien qu'ils se renseignent auprès du syndicat d'initiative ou auprès de l'association d'art floral belge, la BAFAS, au 19 32 92 22 77 07.
C'est un numéro de téléphone belge.
Allons. Alors, au mois prochain.
Merci, Cécilia.
À vous deux.
Merci, madame. Merci, monsieur. Il faudra que vous reveniez un jour pour nous parler plus longuement du compagnonnage.
Moi,
ça me passionne.
Et puis, il y a beaucoup de choses avec les jeunes aussi à dire.
Est-ce que je peux transmettre une question strictement technique d'une auditrice?
Essayez.
Le myosotis, les primes vertes, les pâquerettes refleurissent-elles l'année d'après, même si elles sont en pot? Et si oui, doit-on couper les feuilles après floraison? Ces fleurs sont-elles bisannuelles? Voilà des questions.
Le myosotis est bisannuel. En pot, c'est rare que ça refleurisse. Moi, en général, je les transplante au jardin. Et ça refleurit quand ça veut.
Encore faut-il avoir un jardin.
Voilà.
Bien, les annonces. Alors, j'ai une annonce bien triste. On va parler de bande dessinée, on n'en parle pas souvent. Mais comme j'avais reçu cet ami à ce micro, Jean-Marie Pellaprat, qui était une des grandes figures de la bande dessinée en France ces dernières années, qui était également dramaturge, qui était écrivain, qui était historien, est mort dimanche soir brutalement. Et c'est lui qui, sous la signature de Guy Ampey, avait fait les scénarios des très beaux albums de bande dessinée, notamment sur la Révolution et sur la Chouannerie, que republient les éditions du Triomphe depuis quelque temps. Et puis ça, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une triste nouvelle, parce que c'était un garçon tout à fait exceptionnel. Mais il y a une bonne nouvelle, je trouve, c'est que Dargo va éditer un inédit de Goscinny et Gottlieb dans la série des Dingos d'aussi. Alors, je dis ça pour les amateurs de bande dessinée de la belle époque. Goscinny a été un des plus grands génies mondiaux de la bande dessinée, et Gottlieb n'est pas mal non plus dans le genre. Et donc, d'une façon très inattendue, on a retrouvé toute une série de planches qui n'avaient jamais été éditées et qui vont paraître chez Dargo prochainement. Alors, à propos du sida, ça n'a rien à voir. Parution d'un cahier dans les cahiers Saint-Côme et Saint-Damien, on peut se les procurer, 71 rue de la Paroisse à Versailles, toujours, décidément, qu'est-ce qu'on est versaillais sur cette radio, ça coûte 50 francs.
La maîtrise des garçons de Touvna, près de Moscou, donnera un concert demain à 17h au conservatoire Rachmaninov, 26 avenue New York, 75-016 Paris. Téléphone 47-23-51-44. Je ne sais pas si la cantine du conservatoire existe toujours. Il y a quelques années, on y faisait des Balthazar formidables. L'atelier de l'éclipse, le 13 avril 95, pardon, à 21h, conférence de Houchang Navandi, la France face à la poussée de l'intégrisme islamique. On en reparlera. Rues de l'asile Popincourt, on le sait. Le Centre européen d'information recevra Pierre de Villemarais pour une conférence débat sur les coulisses de l'actualité française et internationale, l'espionnage et le mondialisme, l'international des mafias, la crise à Moscou en Europe centrale et en Chine. Ça se passe le 7 avril 95 à 19h. Le même jour, 7 avril 95, mais là, entre 14h et 20h, le paysan de l'Arche recevra ses amis et les autres dans son magasin 8 rue Marbeuf pour déguster et découvrir toutes les spécialités que cette association ou cette boutique de produits eubiotiques, c'est-à-dire absolument dénués de tout ajout d'engrais artificiels, vend. C'est merveilleux, il y a des œufs qui ont le goût d'œuf, c'est tout à fait étonnant, ça existe encore. Et puis, lundi 10 avril à 19h, Soufana Vong, qui est une jeune laotienne qui a vécu 3 ans dans un camp de concentration au Laos, dédicacera son livre. Elle sera présentée par le commandant Guillaume, le fameux crabe tambour, enfin un des deux personnages qui ont inspiré le crabe tambour.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, document d'archives du 29 mars 1995, rediffusé dimanche 6 octobre 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. C'est pour la Sainte-Russie. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et blanc, et votre âme.